CV. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1.
Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Bienvenue à ton émission du midi. Émission On en jase. Où on parle d'actualité, de politique. On analyse le tout pour toi. On regarde également les dossiers locaux. Plus en profondeur. On va d'ailleurs parler tout à l'heure avec Pierre-Paul Biron, journaliste au Palais de justice de Québec pour le Journal de Québec. On va revenir, entre autres, sur le procès de Mathieu Martel, cet entraîneur de cheerleading qui est accusé d'agression sexuelle, notamment de relations sexuelles complètes avec une jeune adolescente de 14 ans. Hier, il a dit elle n'avait pas 14 ans, elle avait 16 ans. On va parler de ça avec Pierre-Paul Biron. Et ce matin, c'est son contre-interrogatoire par la couronne. On va aussi revenir sur le chauffeur récidiviste Éric Légaré, qui s'est fait donner un permis de sortie après seulement quelques années en prison alors qu'il a tué 4 personnes. On s'en souvient, c'est un accident marquant sur l'autoroute Dufresne-Montmorency. Donc, on parle de tout ça avec Pierre-Paul Biron en termes de dossier local. Et en termes de dossier politique provincial, normalement, dans les prochaines minutes, Maïté Blanchette-Vézina va nous appeler. La nouvelle députée du Parti conservateur du Québec, elle va se présenter dans Lapeltrie et non dans Rimouski. Donc, on va évidemment questionner Maïté Blanchette-Vézina à cet effet-là. On va avoir le caucus avec Antonine Iaccarini. On va parler de deux gros sujets du jour, c'est-à-dire Michael Rousseau et son manque de français dans ses... dans ses excuses, dans ses paroles, dans ses discours envers les gens au Québec. Et on va aussi parler du cas de Julien Lacroix et de ce tribunal public auquel il fait signe. Pascal!
Oui, rapidement, breaking news, ça vient de sortir dans les 5 dernières minutes pendant qu'on a Antonine avec nous. C'est le fun aussi de le mentionner parce que je sais que les trois, on était fort préoccupés par les chauffeurs Inc., hein, les conducteurs de véhicules lourds qui ont causé des accidents. Puis on se demandait où sont les répercussions négatives de ça, où sont les accusations, pourquoi on ne les voit pas en justice. Pour l'accident mortel à Vallée-Jonction, on vient d'apprendre que le chauffeur du camion va faire face à la justice. Donc, c'est l'accident qui a causé la mort d'Alexandra Poulain en décembre 2024. Il a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec. La juge a accordé sa liberté en attendant la suite des procédures. Mossane Issamounoula, 40 ans, a été interrogé par les policiers dans la grande région de Montréal hier, puis a comparu rapidement aujourd'hui. Alors, mandat d'arrestation, 2 infractions alléguées, une de négligence criminelle causant la mort et une autre de conduite dangereuse causant la mort.
Antonine Iaccarini, ça va bien?
Oui.
Oui, Pascal CV aussi?
Très bien.
Excellent. Ça va rejoindre immédiatement la nouvelle députée du Parti conservateur du Québec. Elle est présentement députée du comté de Rimouski. Elle se présentera dans Lapeltrie aux prochaines élections provinciales. Maïté Blanchette-Vézina. Madame Blanchette-Vézina, merci pour votre présence à l'émission On en jase.
Ça me fait plaisir. Bonjour.
Bonjour. Madame Blanchette-Vézina, est-ce que vous êtes une opportuniste politique?
Si j'étais opportuniste, c'est sûr que je ne serais pas allée dans un parti qui n'a pas de député de 1 et qui est à 15 % dans les sondages. C'est par valeur, par conviction que j'ai choisi d'aller au Parti conservateur parce que je veux continuer de défendre les régions, défendre une meilleure efficacité de l'État, des services de santé, le privé en santé. Donc, c'est des choses qui étaient déjà dans la plateforme de la Coalition Avenir Québec à la base, mais qui n'a pas été suivie. Et moi, c'est ces valeurs-là qui me font aller au Parti conservateur.
Oui, je comprends tout ça, mais n'empêche qu'à Rimouski, à l'heure actuelle, le comté que vous représentez, le Parti conservateur, est 5e dans les sondages selon Québec 125, alors que dans Lapeltrie, il est premier. Donc, plusieurs personnes, dont moi, je ne le cacherai pas, voient de l'opportunisme politique. Qu'est-ce que vous me répondez?
Ben écoutez, moi, je veux que le Parti conservateur, on ait des députés, plusieurs députés à la prochaine élection. Et dès le départ, avec les discussions que j'avais eues avec Éric Duhaime, je lui mentionnais mon désir de me rapprocher de Québec. Ma famille est à Québec en grande partie. Là, donc, pour moi, c'était déjà dans l'idée de me rapprocher de Québec. Là, donc, pour moi, c'est vraiment pas de l'opportunisme. C'est plutôt par conviction et parce que je souhaite aussi qu'on ait plusieurs députés à la prochaine élection qui viennent du Parti conservateur. Alors, c'est certain que le Parti souhaite avoir des députés avec de l'expérience. J'ai de l'expérience comme ministre, comme député, comme mairesse. Et c'est la volonté là, de vouloir faire rentrer plusieurs députés à être un parti reconnu à l'Assemblée nationale après la prochaine élection.
Avez-vous négocié votre comté avec M. Duhaime pour avoir la Lapeltrie?
Non, pas du tout. En fait, c'est M. Duhaime qui me l'a proposé. Puis après réflexion, je me suis dit, ben c'est un beau défi. Puis moi, ben je souhaite vraiment commencer à aller à la rencontre des gens. Je suis quelqu'un qui est proche du terrain. C'est ce que je vais commencer à faire déjà, aller dans la pelleterie, parce que je souhaite vraiment aller à la rencontre des gens puis entendre ce qu'ils ont à dire à Val-Bélair, à l'ancienne Lorette. D'ailleurs, ce soir, là, il y a une rencontre militante au club de golf de Lorette, là, donc on va commencer le travail. Puis moi, ben c'est ça, c'est vraiment, je veux continuer d'être la députée que les gens me connaissent, c'est-à-dire qui veut défendre avec fougue les dossiers, les intérêts des citoyens au Parti conservateur. Puis je pense que les idées conservatrices, elles doivent être entendues d'une manière forte à l'Assemblée nationale, puis on va y travailler pour la prochaine élection.
Madame Blanchette-Vézina, il y en a qui sont surpris parce qu'ils vous connaissent un peu plus comme une mairesse de gauche, et là, vous vous liez à un parti conservateur, vous allez avec Éric Duhaime. Est-ce qu'on peut expliquer ça?
Ben, en fait, ce que les gens pensent de la gauche, c'est mes idées de gauche, c'est ce que j'avais fait en lien avec l'exploitation des hydrocarbures. Puis sur ce fait-là, vous avez raison, là, j'avais mentionné que je ne souhaitais pas qu'il y ait d'exploitation d'hydrocarbures sur le territoire de la municipalité de Sainte-Luce alors que j'étais mairesse. Mais rappelons que le contexte était très différent. Et moi, j'ai évolué là, comme d'autres aujourd'hui. Puis on peut penser à Christine Fréchette, mais Mathieu Bock-Côté également. Là, je pense que le contexte, il a profondément changé. La technologie aussi a changé. Ça, c'est rassurant. Moi, ce que j'ai vu comme ministre des Ressources naturelles, c'est des technologies qui permettent de recycler l'eau et qui ont moins d'impact sur l'environnement. C'est sûr que d'exploiter des hydrocarbures, ça reste que ça a de l'impact. Mais on est dépendant en ce moment et on le vit avec la guerre en Iran. Celle en Ukraine aussi qui avait eu des effets. Le fait d'être dépendant du gaz et du pétrole, de l'importation du gaz et du pétrole, ben ça nous rend vulnérables. Et aujourd'hui, comme société québécoise, là, on n'a pas le luxe non plus de ne pas exploiter nos ressources. Puis soyons clairs, ça ne touchait que les hydrocarbures, parce que moi j'ai toujours été pour l'exploitation forestière, parce que c'est important pour les régions. Puis on des minéraux critiques stratégiques aussi, l'exploitation de nos ressources, autres que le gaz et le pétrole. Donc pour moi, il y a une évolution des idées en termes d'exploitation des hydrocarbures et du gaz, parce que on en a besoin et on est dépendant et le contexte a profondément changé.
Vous avez mentionné que vous voulez commencer tout de suite à faire du terrain dans votre peut-être future circonscription. Qu'est-ce qui est prévu en termes de... Où allez-vous vivre? Est-ce que vous allez déménager à Québec bientôt? Est-ce que vous voulez partager votre vie entre les deux villes? Comment vous voyez ça pour la suite?
Bien, en fait, je suis en train de magasiner une résidence secondaire pour l'instant, là, mais certainement que c'est dans mes volontés de que tout le monde suive puis vienne avec moi à Québec. Mais j'ai déjà un appartement ici, j'y ai habité 10 ans, je connais bien, puis j'ai étudié à Québec, je connais bien là la région. Puis bien sûr, là, c'est ça, ma volonté, c'est de venir m'installer, de me rapprocher de ma famille. Ça, c'est d'un point de vue personnel. Et je suis en démarche en ce moment.
Hier, on avait plusieurs personnes qui nous textaient au 418-971-1021 qui ont de la parenté à Rimouski, que les gens de Rimouski se disaient très fâchés après vous d'avoir décidé de les laisser tomber pour vous emmener à Québec et ne croient pas que vous allez en prendre soin d'ici la fin de votre mandat. Vous répondez quoi à ces citoyens-là qui se sentent trahis par vous, par vos paroles?
Ben en fait, je veux les rassurer. Là, je continue de travailler à Rimouski. Puis tu sais, comme je vous dis, je vais commencer à aller à la rencontre des citoyens de la pelleterie, mais ma priorité demeure d'être députée de Rimouski là, jusqu'à la fin du mandat. D'ailleurs, aujourd'hui, deux pétitions que j'ai déposées en lien avec des dossiers de Rimouski. Demain, ma question va toucher Rimouski encore. Tu sais, j'ai des questions à l'Assemblée nationale. Donc, je continue mon travail de députée de la circonscription de Rimouski. Et j'ai des rencontres avec des partenaires. Tu sais, je continue à être à Rimouski là, jusqu'à la fin de la session puis la fin du mandat.
Il y a des gens qui rapportaient le fait que vos valeurs ont mené au fait que ça a été super long avant de faire cette annonce-là aux côtés d'Éric Duhaime, qu'il y a des valeurs entre vous et M. Duhaime qui ne correspondaient pas. Quelles sont-elles?
Je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, parce qu'en fait, nous, on a appris à se connaître. Là. L'idée, c'était de s'assurer que le Parti conservateur rejoignait les idées que j'avais aussi en termes de décentralisation des décisions, en termes de réduction de la taille de l'État central. Ce qu'on connaît dans les régions du Québec du Parti conservateur, c'est pas nécessairement ce que c'est réellement. Puis moi, j'ai appris à découvrir le parti. J'étais aussi échaudée là, d'avoir fait confiance à la CAQ et d'avoir été trahie, d'avoir senti qu'on ne m'avait pas dit la vérité. Pour moi, c'était si on n'a pas réalisé ce qu'on avait dit qu'on allait faire aux citoyens, c'est sûr que de me rembarquer dans un parti, il fallait que je m'assure, comme je l'avais dit, que c'était un parti qui réellement voulait décentraliser les décisions, vouloir être présent sur pour les citoyens en termes aussi d'efficacité des services. Donc, c'est ce temps-là qu'on a pris. Puis je pense que M. Duhaime ne s'en est pas caché. Là, il souhaitait aussi, de son côté, qu'on prenne le temps de s'assurer que ça pouvait correspondre aussi avec les militants de son parti. Donc, moi, c'est tout récent. J'étais même pas certaine de me représenter jusqu'à il y a quelques semaines parce que c'est difficile quand même la vie publique avec des enfants comme mère de famille, mais je veux servir encore les citoyens, puis je veux encore améliorer le Québec, parce que si on fait de la politique, c'est aussi parce qu'on veut améliorer le sort des gens, puis le Québec, il a besoin de grands changements, puis je suis convaincue que ça va venir du Parti conservateur.
Vous l'avez dit, vous voulez défendre l'offre politique du Parti conservateur, vous voulez proposer des changements. Vous avez mentionné tantôt notamment la place du privé en santé. La santé, ça demeure un enjeu hyper important qui va certainement prendre la place dans la prochaine campagne électorale. C'est quoi, outre le privé en santé, c'est quoi la position et la vision du Parti conservateur en matière de santé, notamment l'agence qui a été créée, la réforme du B? Est-ce qu'on met tout ça à terre? Est-ce qu'on continue dans la même voie? Est-ce que Santé Québec sera aboli, maintenu? Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, bien, ce que le Parti conservateur dit, c'est qu'il faut arrêter de décentraliser puis mettre de la concurrence du privé en santé, puis ça, bien, j'y adhère. C'était d'ailleurs ce que la CAQ proposait. Là, elle a centralisé avec Santé Québec, puis on voit que ça a des effets plutôt négatifs, en fait, dans les services en région.
Mais donc, c'est comment on peut décentraliser concrètement?
Ben en fait, c'est sûr que l'agence Santé Québec ne fait pas ce qu'elle dit qu'elle devrait faire, c'est-à-dire offrir des services partout sur le territoire québécois qui sont de qualité. Donc cette centralisation-là, je pense qu'on a vu là que ça ne fonctionnait pas. Ceci étant dit, je sais qu'on est en train de travailler sur une plateforme. Fait que sur plus de détails, il est certain qu'on va décliner, plusieurs de nos engagements dans les prochains mois, prochaines semaines, en fait, avec la campagne électorale.
Vous allez vous présenter dans la région de Québec. Outre le tramway, le troisième lien, qui sont des débats sans cesse depuis une dizaine d'années, quelles sont les priorités selon vous pour la Capitale-Nationale?
Ah ben, on parlait de santé, vous l'avez dit, troisième lien. Effectivement, dans la mobilité, tu sais, moi, j'ai parlé avec le conseiller qui est chef de l'opposition officielle à Québec, qui sera là d'ailleurs pour l'événement de ce soir pour appuyer ma candidature. Il y a beaucoup de familles qui viennent dans la pelleterie, beaucoup de familles qui habitent à Québec. La mobilité, c'est un enjeu. Au-delà du tramway, je pense que le tramway, ça n'apportera pas la fluidité dont les citoyens ont besoin là, dans le coin de Val-Bélair, notamment, Fossambeau, Sainte-Catherine. Donc, c'est difficile. Là. Il y a comme une affluence de construction sans que les routes aient suivi. Fait que ça demeure une des grandes priorités.
Donc,
pour
c'est
moi,
de bâtir des autoroutes plus larges?
Ben effectivement, ça peut faire partie de ça. Moi, dans les prochains jours, je vais aller à la rencontre des citoyens. Mais effectivement, on m'en parle et on m'en a déjà parlé là, de cet aspect de puis, difficulté de fluidité et d'école également.
Puis outre la mobilité, justement, quels sont les autres enjeux pour la Capitale-Nationale?
Ben plusieurs éléments. On parle beaucoup, énormément du tramway en ce moment. Et d'ailleurs, je vais être à la manifestation en fin de semaine. Je pense que c'est un projet du maire. Et qui suscite beaucoup de questionnements. Fait que dans les prochains jours, là, comme je vous dis, je vais aller à la rencontre des citoyens pour m'assurer aussi d'entendre ce que les gens ont à dire à propos des besoins. On peut parler d'immigration aussi. On a présenté un projet de loi, Éric Duhaime et moi, pour décentraliser les décisions. Ça veut dire en immigration. Ça veut aussi dire que la gestion, au lieu qu'elle se fasse de manière centrale à Québec, ben, elle va se faire par exemple, la ville de Québec, mais l'ensemble de la capitale nationale pour s'assurer qu'on respecte la capacité d'accueil, mais aussi les besoins qui sont présents en termes d'entreprise. Donc, c'est pour mieux arrimer ces décisions-là. Et ça, les citoyens le demandent. Il faut respecter notre capacité d'accueil, mais il faut aussi s'assurer qu'on puisse continuer d'avoir une économie qui fonctionne. Le vieillissement de la population, là, c'est maintenant. Les services sont au point de rupture dans certaines en santé notamment. Si on n'a pas de gens qui travaillent dans nos entreprises, qui payent des taxes, des impôts, comment on va faire pour continuer à soutenir le modèle québécois? Donc, je sais qu'il y a plusieurs autres enjeux et je vais continuer d'aller, comme je vous dis, à la rencontre des citoyens pour m'assurer de bien les représenter dans les prochaines semaines.
Madame Blanchette-Vézina, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé à l'émission On en jase et bonne continuité dans le parti d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec.
Merci, ça m'a fait plaisir.
Merci, au revoir. Maïté Blanchette-Vézina, nouvelle députée pour le Parti conservateur du Québec. Elle se présentera dans La Pelleterie, un comté dans la capitale nationale. J'ai répété à deux reprises, outre la mobilité, mais on revient toujours au « Ah, pas de tramway. Ah, je vais aller sur René Lévesque, je vais dire que je veux encore les arbres. Mm-hmm. » On est très dans le superficiel, encore une fois.
Bien, avoir à prendre connaissance, j'imagine, mais c'est sûr qu'on a des questions, parce que quand t'as un candidat ou une candidate qui est parachuté dans une région, bien, c'est sûr qu'on a un doute sur la connaissance et la sensibilité pointue des enjeux. Bon, maintenant, c'est pas la première personne qui va se présenter dans une autre région. Tu sais, pour ce qui est de déménager ici, puis de gérer sa vie en conséquence, puis comment elle va partager entre Rimouski puis Québec, bien, son avantage quand même, c'est que l'Assemblée nationale est à Québec.
C'est clair.
Elle partage déjà sa vie entre Québec et Rimouski. Donc, à mon avis, ça se fait. Par contre, du point de vue des contorsions idéologiques, c'est plus cet aspect-là, moi, qui me
ouais, d'ailleurs, c'est venu par texto. Et, écrivez-nous comment vous avez trouvé l'entrevue avec peut-être une future députée de la capitale nationale, Maïté Blanchette-Vézina. Écrivez-nous au 418-971-1021. Il y en a plusieurs qui ont écrit, là, hey, elle a eu sa carte de QS, là, puis elle est rendue au Parti conservateur. Là. T'sais, c'est classe, une opportuniste.
Oui, puis pour vrai, je fais partie des gens qui ont une certaine tolérance face aux transfuges,
moi aussi,
à l'évolution des idées, c'est bien correct. Mais disons que dans ce cas-ci, je pense qu'on est en droit de se poser certaines questions sur ses valeurs et sur la solidité de ses valeurs. Parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand il y a une historique de « on change d'idée souvent », ben après ça, quand on déclare quelque chose et qu'on promet des choses, qu'on dit des choses aux citoyens, peut-être que des fois, le niveau de confiance peut être un petit peu moins élevé.
L'authenticité aussi. Hier, j'avais une discussion avec Jeff là-dessus. Antonine, t'étais partie. Puis ça nous permet de la poser aujourd'hui. En tant qu'analyste politique, des gens qui vont se faire élire, par exemple, dans la Pelleterie, où on voit qu'un parti est en avance, où les concurrents, les compétiteurs politiques, tiens, les adversaires ne sont pas aussi forts que cette personnalité-là. Est-ce qu'on considère à l'Assemblée nationale qu'ils sont des politiciens ancrés, que réellement la population les a voulus? Est-ce qu'on fait une différence entre un politicien qui a vraiment été élu avec peut-être, tu comprends où je m'en vais, avec peut-être plus de gens qui l'appuyaient sincèrement et non que c'est un concours de circonstances? Ou...
Oui, on fait une différence entre les deux dans le sens qu'il y a des députés qui sont très issus du terrain, enracinés. T'sais, c'est sûr que le député qui me vient en tête, c'est Pascal Bérubé dans Matane. C'est un député. Il est député de Matane avant tout. Il a été ministre aussi, mais c'est comme la cerise sur le sundae pour lui. Alors qu'il y a des gens, par exemple, plein de caquistes qui se sont présentés en 2022 dans des comtés qui étaient sûrs de remporter. C'était pas, Pierre Fitzgibbon, c'était pas le député de Terrebonne. C'était très secondaire pour lui, Terrebonne.
Wow, en effet. T'es plus, il était allé justement en politique pour être super ministre de l'économie et de l'énergie. On verra comment ça va se placer pour Maïté Blanchette-Vézina. Chose certaine, au 418-971-1021 présentement, vous n'êtes vraiment pas en faveur de sa candidature dans la circonscription de La Pelleterie. La Pelleterie, je le rappelle, sur Québec 125, qui est à 31% conservateur et 27% libéral. Donc, ça va être très serré, selon moi. Et d'ailleurs, plus tard à l'émission, Lambert Drainville va nous présenter des extraits de son entretien qu'il a eu avec Charles Milliard, nouveau chef du Parti libéral du Québec. Dans un instant, on va faire le caucus avec Antonine Iacarini à l'émission On en jase sur Boulevard 102. On va entre autres parler de Michael Rousseau, ce PDG d'Air Canada qui en 2021 avait dit « Oui, oui, inquiétez-vous pas, je vais l'apprendre le français. » Puis qu'en 2026, il est juste capable de dire « Allô et merci ».
Bonjour.
Bonjour, oui, c'est ça, exactement. Et on va aussi revenir sur Julien Lacroix qui décide de quitter justement l'humour en raison là, du tribunal public. C'est ce qu'on jase dans un instant à On en jase sur Boulevard 102.1. On en jase. Midi 24 minutes, vous en pensez quoi de cette entrevue avec Maïté Blanchette-Vézina? Est-ce qu'elle vous a convaincu jusqu'à présent? J'ai pas le choix de dire 100% des auditeurs au 418-971-1021 sont pas du tout convaincus par son transfert dans la circonscription de La Pelleterie. Ils la voient comme une opportuniste politique. BLVD.fm pour nous écouter et écouter nos meilleurs moments. L'entrevue avec Maïté Blanchette-Vézina va s'y retrouver après l'émission. BLVD 102.1, c'est notre application sur App Store, Google Play Store, twitch.tv/BLVD/FM pour venir nous voir en studio. Et abonnez-vous à notre page YouTube, du contenu exclusif s'y retrouve, dont le caucus avec Antonine Iacarini, qui va débuter dans quelques instants. Mais avant le caucus, Pascal, rapidement, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Nouvelle de dernière heure, le chauffeur du camion, dit Camion Inc., un chauffeur Inc. qui a causé l'accident mortel à Vallée-Jonction, donc la mort d'Alexandra Poulin, 26 ans, en 2024, fait face à la justice. Mossan Issanoula, 40 ans, il a été interrogé par les policiers hier dans la grande région Montréal et il a comparu aujourd'hui au palais de justice de Québec. C'est un mandat d'arrestation et deux infractions alléguées, soit négligence criminelle causant la mort et une autre de conduite dangereuse causant la mort. Le dossier sera de retour en cours le 8 mai prochain. Il fallait un interprète pour entendre les procédures en anglais à l'accusé. La famille décimée à Beauport, le chauffeur récidiviste va pouvoir visiter sa famille. Je vous en parlais il y a une semaine, mais celui qui a causé la mort de 4 membres d'une même famille en septembre 2021 pourra avoir droit à des sorties mensuelles. Ça sera sans escorte pour entretenir ses rapports familiaux. Éric Légaré, donc, peut profiter une fois par mois maintenant de sorties sans escorte. C'est 72 heures chez ses parents à Québec qui lui a été conservé, qui lui a été autorisé pour préserver des liens significatifs avec ses proches. Julien Lacroix quitte l'humour et il a fait l'annonce aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. L'humoriste de 33 ans reconnaît qu'il y a eu des comportements problématiques, mais réaffirme n'avoir violé personne, Il le souligne et il dit qu'il ne se reconnaît pas dans le portrait de prédateur que certains lui ont fait. C'était la dernière chance pour Julien Lacroix de réintégrer, si on veut, les salles de spectacle. Et pour lui, c'est terminé. PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, est convoqué devant le comité des langues officielles à Ottawa. Il se fait reprocher, en fait, de ne pas avoir appris officiellement le français tel qu'il avait promis auparavant.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans Le Caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici Le Caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Le caucus avec Antonin Iaccarini. Normalement, compté de midi, du lundi au mercredi. Mais là, Antoine a participé à l'entrevue de Maïté Blanchette-Vézina avec nous. Donc, elle accepte de faire son caucus un peu plus tard. Merci pour ta flexibilité. J'apprécie tellement.
Très flexible, moi.
Merci beaucoup. Anto, je commence le caucus en te faisant entendre quelque chose, d'accord? Je te dis pas c'est quoi. À l'oreille, tu me le diras.
Hello. Bonjour. Ah! I'm Michael Rousseau, president and CEO of Air Canada. Today is a very somber day.
Attends, là, le français s'en vient.
Oui, après.
Oui, oui, oui.
I'm here to provide information.
Ah, mais sur Internet, par exemple, c'était pratique, ils mettaient des sous-titres en français.
Air Canada Express aircraft.
Attends, ça s'en vient, là, ça s'en vient.
The aircraft was operated by Jazz Aviation LP.
On rappelle que le pilote décédé est un Québécois.
First,
sa famille super heureuse présentement. Ça sent qu'Air Canada prend soin. Ouais, respecté.
Tout le reste, je pense qu'on en a assez.
Ah ouais, il n'y aura pas de mots en français?
Non, il n'y en aura pas.
Il n'y en aura pas?
Non.
Tu te trompes, il y a un merci à la fin.
Merci? Il y a un merci à la fin. Je ne me suis pas rendu jusqu'à la fin.
Non, moi non plus, je ne me suis pas rendu jusqu'à la fin. C'est rire de nous autres en pleine face, Anto.
Bon, écoute, Michael Rousseau, PDG d'Air Canada, c'est pas sa première controverse. On se rappelle, en 2021, il était censé donner, en fait, une conférence « In English Only » à la Chambre de commerce de Montréal. Ça avait fait grand bruit, mais c'est surtout sa réaction face aux réactions, OK? Donc, les gens disaient, est-ce que c'est normal que le PDG d'Air Canada, qui a des obligations en matière de langue officielle, il faut le dire, hein? C'est une ancienne entreprise, une ancienne compagnie de la Couronne, Société de la Couronne, pour être plus précise, je cherche mes mots ce matin, qui a déjà donc été davantage dans le giron public et qui maintenant est une entreprise privée, mais qui a des obligations en matière de langue officielle. Mais de celles-ci ne font pas partie le fait que le PDG doit parler français. Okay? Donc là, on est dans l'informel. C'est un symbole. Hein? Ça envoie un mauvais message. Mm-hmm. Et il s'était fait questionner concernant cette conférence à l'époque en 2021, puis il avait dit, ben, dis-moi, tout ça en anglais, bien sûr, j'habite à Montréal depuis 12 ans, puis je n'ai jamais eu besoin d'apprendre le français. Et ça avait fait vraiment réagir parce que ça vient gratter un petit peu nos bobos. Hein, le bobo du patron anglophone là, qui respecte pas beaucoup.
Ben oui, dans les années, on le sait, le syndicalisme a monté en raison de ça. On a un texto qui est rentré. L'anglais, la langue officielle du Canada. Nous sommes au Canada. C'est quoi la controverse? C'est faux. Le Canada est un pays bilingue, anglais-français.
Donc, il y a deux langues officielles au Canada. Au Québec, particulièrement, il n'y a qu'une langue officielle en passant. Et au Nouveau-Brunswick, deux langues officielles. Sinon, dans le reste du Canada, au niveau provincial, effectivement, il n'y a pas d'obligation de français.
Mais au niveau fédéral, il y a une obligation de français.
Et voilà. Par contre, ce qui peut être mélangeant, Effectivement, c'est que les obligations en matière de langue officielle d'Air Canada, c'est des obligations qu'ils ont envers leurs employés, par exemple, dans le droit de travailler en français ou dans une des langues officielles. Donc, toutes les communications à l'interne, communications aux employés doivent être faites dans les deux langues. Il y a des obligations face à la clientèle également. Pour ce qui est du PDG, et là, c'est là qu'on tombe un peu dans le subjectif. Il y a des gens qui vont dire bon, « je comprends pas trop c'est quoi le scandale » et je peux comprendre aussi. Je dois t'avouer, oui. Jeff, que mes amis canadiens-anglais comprennent absolument pas c'est quoi le problème.
Mais dis-moi, c'est quoi le problème? Air Canada, ça fonctionne, on voyage du point A au point B, fermez
exact.
Vos trappes.
Et aussi, c'est que la job du PDG, c'est de bien gérer Air Canada.
En
le problème,
effet.
C'est quand on sort M. Rousseau et qu'on le fait communiquer, il n'est même pas capable de lire un télésouffleur en français ou de dire quelques mots. Et aussi, l'autre problème, c'est qu'en 2021, après la controverse, il avait dit « ben je vais prendre des cours de français ». Ça avait pris ouais. du temps avant de se faire accepter.
Ben moi, c'est bien plus là, pour moi, la controverse. C'est quand tu fais une promesse parce que tu te retrouves dans un poste, dans une organisation qui se doit d'être bilingue, et que tu fais la promesse d'apprendre une langue, puis 5 ans plus tard, tu ne l'as pas encore appris,
ouais.
Moi, pour moi, c'est une trahison envers l'entreprise, c'est une trahison envers le conseil d'administration. Moi, j'ai déjà travaillé pour une entreprise, il fallait que je sois bilingue, je parlais pas assez bien anglais. On me disait, on va te payer des cours
ouais.
d'anglais. J'ai fait des cours d'anglais, je suis devenu bilingue.
Oui, puis toi, tu es capable d'apprendre une langue. Visiblement, M. Rousseau n'est pas capable d'apprendre mm-hmm. des mots. Ça me fascine, honnêtement. Tu sais, moi, si j'allais, je nommais PDG d'une entreprise hollandaise, là, puis que je passais 10 ans aux Pays-Bas, d'après moi, je serais capable de dire mes condoléances en Dutch.
Sûrement.
Mais bon, cela dit, non, il n'a pas l'obligation d'être bilingue. C'est ça l'affaire.
Je le sais.
Moi, je pense qu'il y aurait besoin d'avoir une clarification à ce niveau-là parce que ça va. Puis Air Canada devrait la demander, la clarification, honnêtement,
t'as raison.
Dans les règles. Parce que là, il se fait convoquer, il y a tout un show politique qu'il va avoir avec ça. Et à quelque part, c'est un peu absurde parce qu'il y a 2 pilotes qui sont morts.
Oui.
Il y a des agents de bord traumatisés.
Ben oui.
C'est capoté ce qui s'est passé
à la
Guardia.
Il y en a une qui a fait 100 pieds dans les airs.
Il y en a une qui a fait 100 pieds dans les airs. Il y avait des passagers. C'est épouvantable ce qui s'est passé. Et là, on tombe dans un débat linguistique stérile. Et on n'a pas le choix parce que c'est tellement, encore une fois, un manque de respect. Puis, tu sais, les Québécois là, et les francophones à travers le Canada, parce qu'on n'est pas, il y a d'autres personnes qui parlent mm-hmm. français au Canada, ils ne demandent pas la perfection.
Ah non.
Regarde, Mark Carney, là, il ne parle pas un français exceptionnel, puis il fait des erreurs.
Hey.
Hey, on s'en fout. C'est l'effort, c'est le respect.
Ils ne demandent pas à perfection à Nick Suzuki, le capitaine du Canadien. Fait qu'ils ne demanderont pas à Michael Rousseau.
Ils ne demanderont pas à Michael Rousseau. Mais aussi, je trouve ça un peu... En fait, je trouve bien pire que notre gouverneur général ne parle pas français.
Hey, justement, j'allais t'amener sur ce terrain-là et je te fais entendre Joël Godin, député du Parti conservateur du Canadien. C'est un court extrait. Il répond justement à la question de Mario Dumont sur les ondes d'LCN. Est-ce que le gouverneur fédéral... Donne l'exemple.
Oups. Le gouvernement, c'est très malhabile d'exiger des autres. Et vous avez entièrement raison.
Je vais leur faire jouer, excusez-moi.
Quand on ne prêche pas par l'exemple au gouvernement, c'est très malhabile d'exiger des autres. Et vous avez entièrement raison.
Et voilà. Et là, c'est pour ça que je te dis, je vais te faire écouter par la suite notre premier ministre canadien, Mark Carney, qui, pour moi, joue à l'hypocrite mm-hmm. dans ce dossier-là.
Air Canada a une responsabilité particulière. De communiquer tout le temps, n'importe quelle situation, dans les deux langues officielles. Je suis tellement déçu par le message vidéo du PDG d'Air Canada. Il manque de jugement et de compassion. Et je vais suivre de près ses commentaires devant le comité des langues officielles et des commentaires du Conseil d'administration d'Air Canada.
Puis j'explique l'hypocrisie. C'est que Mark Carney tolère une lieutenant-gouverneur qui ne parle pas français.
Gouverneur général.
Gouverneur oui. général, je m'excuse, merci de m'avoir donné le bon terme. Mark Carney, je dois reconnaître, a fait des efforts avec son français.
Il parle français.
Il parle français, il a fait des efforts,
ouais.
ça va mieux, ça me satisfait. Mais la même journée où on parle de ceci à la Chambre des communes et à l'Assemblée nationale, on apprend dans les médias que les deux personnes qui écrivent les discours pour Mark Carney parlent juste en anglais.
Ben oui, il n'y a pas de problème. Tu as juste à passer ça dans Google Translate.
Ouais, puis là, ça donne qu'on a pris un café, c'est plein dans la bataille. C'est ça que Google Translate te
exact.
Donne.
Exact. Non, oui, il y a une dissonance ici. Puis, tu sais, pour la gouverneure générale, tu sais, on peut se dire, on s'en fout de la gouverneure générale, dans le fond, puis on ne se sent pas toujours concerné.
Ben, en effet.
C'est un poste qui est symbolique. Ben, justement.
Ben oui.
Si c'est juste symbolique, ça devrait au moins cocher les cases symboliques, s'il vous plaît.
Peut-être aller faire de la représentation en France puis parler en français avec Emmanuel Macron, s'il vous plaît.
Et point commun avec M. Rousseau, elle a pris des cours de français. Elle n'est toujours pas capable d'aligner trois mots en français. Ben, visiblement, on a une langue qui est difficile, puis on peut le comprendre. Mais moi, je ne crois plus. Quand quelqu'un me dit, ben là, je parle pas français, mais là, maintenant que je suis dans un poste qui exigerait de le faire, je vais prendre des cours. Visiblement, là, apprendre le français à 60 ans, ça marche pas.
C'est vrai. Oui, puis je me souviens de ça. Là, ça coûte très, 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 très cher, ces cours.
Oui, puis je me doute aussi que M. Rousseau a d'autres chats à fouetter que d'apprendre une deuxième langue. C'est... Mais encore une fois, c'est le manque de respect, c'est l'insensibilité. Ouais. Et hier, par exemple, quand ils ont diffusé ce message, t'es pas capable de lire un télésouffleur? Moi, tu me dis, là, Jeff, là, tu veux-tu faire un message en espagnol parce qu'il y a un des employés touchés par telle situation qui, dont la famille parle espagnol? Honnêtement, je suis pas super bonne en espagnol, mais je suis quand même capable de me débrouiller.
C'est ce que je vais faire. Moi, je vais prendre mon téléphone d'un, puis je vais écouter pendant une heure de l'espagnol, tu sais, pour essayer d'avoir un semblant d'accent. Puis je vais être à peu près capable de te lire le télésouffleur. Ce sera pas parfait, mais ça va être respectueux.
Et sinon, t'as pas une autre personne dans l'équipe qui pourrait prendre la parole?
Ben, c'est ça, là.
Bon, écoute, on peut refaire la stratégie de communication d'Air Canada. Cela dit, M. Rousseau, pour moi, je veux dire, je n'ai plus d'attente envers cette personne-là. Maintenant, il y a plein de réactions politiques. Et je suis même pas certaine que ça nous aide en termes de langue française. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que là... Bon, il faut savoir que le monde à New York, s'ils suivent un peu la situation à la suite de l'accident, doivent trouver ça complètement surréaliste qu'il y ait des bulles linguistiques présentement. C'est sûr que personne en dehors de notre bulle qui comprend ce qui se passe. Les Canadiens anglais, je te le dis, ils ne comprennent pas ce qui se passe en ce moment. Ils ne comprennent pas c'est quoi l'enjeu. Si Air Canada communique correctement dans les langues avec la clientèle et les employés, est-ce que c'est vraiment grave qu'un message de condoléances soit... On est... pris là-dedans, et là, je vois qu'il y a plein de monde qui demande la démission de M. Rousseau. J'ai vu que Simon-Jolin Barrette l'a demandé, ministre de la langue française. François Legault, premier ministre sortant. Les deux candidats à la chefferie de la CAQ l'ont aussi demandé. Mais il faut rappeler que Air Canada, c'est une entreprise qui est privée et que le PDG est nommé par le board.
Exactement.
Et que s'il y a un enjeu, ben c'est les shareholders qui vont faire de la pression pour qu'il y ait quelque chose qui change, et ça ne changera pas. Donc là, on est devant deux choix. Soit on continue d'avoir des débats comme ça une fois par trois ans quand M. Rousseau sort de sa tanière, ou alors on clarifie les règles et on met des attentes qui sont claires en matière de bilinguisme de l'équipe de direction d'Air Canada. Et ça, c'est un débat qu'on devrait avoir, parce que je trouve qu'on tourne en rond en titi, là.
Vous êtes dans le caucus avec Antonine Iaccarini, normalement de midi à midi 30 du lundi au jeudi. Aujourd'hui, on l'a décalé en raison de notre entrevue avec Maïté Blanchette-Vézina qui sera disponible sur blvd.fm. Je félicite Julie qui dit « J'ai 47 ans puis j'apprends le turc. » Là, je n'ai pas une excuse. Good job, Julie.
Non, puis elle a raison. Quand je dis que c'est dur d'apprendre le français à 60 ans, c'est je pense qu'il y en a pour qui c'est plus simple que d'autres. Ouais. Maintenant, à un moment donné, quand il y a certains postes... Mettons que tu veux être premier ministre du Canada, là, ben, je t'annonce que tu devrais le planifier parce qu'il va falloir que tu apprennes à parler français. Désolé.
En effet. En rafale, je veux qu'on termine le caucus en rafale parce qu'on avait des bons sujets aujourd'hui. Julien Lacroix, t'en penses quoi du tribunal public qui choisit qui est bon, qui est méchant, avec Éric Lapointe qui est de retour dans la sphère publique, puis Joël Legendre qui s'était passé un petit poignet dans le parc qui est de retour aussi. Mais Julien Lacroix, lui, il n'a pas le droit d'être de retour dans la sphère publique.
Bien, premièrement, chaque situation est différente. Tu as nommé trois exemples. Je trouve que c'est trois bons exemples parce que c'est trois situations complètement différentes.
Violence conjugale, exhibitionnisme, comportement déplaçant vers les femmes.
Comportement déplacé envers les femmes, allégations d'agression sexuelle aussi pour Julien Lacroix.
En effet.
La première des choses, c'est que, puis je vais vraiment le prendre d'un point de vue plus de relations publiques, parce que moi, j'aime bien analyser comment les gens gèrent ce genre de crise-là. Je ne suis pas avocate. On sait qu'il y a beaucoup de ces allégations-là qui ne se terminent pas au tribunal normal. Donc là, on est dans le tribunal public, médiatique, social. Faut dire que depuis les débuts de l'histoire de l'humanité, les sociétés se sont autorégulées. C'est-à-dire que quand quelqu'un a des comportements qui sont jugés non corrects par la communauté, il va subir des conséquences.
Ben oui.
Plus ou moins grandes, dépendamment de ce qu'on trouve acceptable ou non dans une société. Donc, c'est pas binaire, quelque chose est criminel ou quelque chose est acceptable. Mm-hmm. Il existe toute une zone grise où il y a des gens qui vont avoir des comportements, puis on va dire que c'est pas acceptable comme comportement. Et là, il va y avoir des coûts qui peuvent varier, qui sont dans l'informel, encore une fois. Donc, bref, tout ça pour dire que si tu te comportes, excuse-moi, en trou de cul, c'est peut-être pas toujours illégal, c'est peut-être pas toujours possible de le prouver en cours.
Mais ça se peut que le monde ça te dise pourrait... « ça me tente plus de te voir, toi ».
Ça me tente plus de te voir. Puis là, on est vraiment dans l'informel. Donc moi, je pleure pas sur le sort de Julien Lacroix. Il a eu les comportements qu'il a eu. Il y a eu de nombreux témoignages. Certains ont été remis en question plus tard. Il y a des gens qui ont... c'est une histoire très complexe que je ne veux pas refaire ici. Mais je trouve ça correct qu'il y ait des conséquences et qu'il y ait des gens qui n'avaient pas envie de travailler avec quelqu'un comme ça. Mais de l'autre côté... Moi, je crois aussi à la réhabilitation. Et j'ai vu des gens qui ont fait des efforts conscients pour évoluer, passer par-dessus leurs anciens comportements qui étaient inacceptables.
Ce qu'il a semblé faire, thérapie, les maintenant sobres.
Ouais, mais très rapidement après les allégations, il commençait déjà à parler de revenir. Hein. Puis j'ai trouvé qu'il était toujours en train de pousser
tout de
suite pour
revenir. Il n'a pas pris assez de distance, selon toi. C'est un bon point.
Et je trouve que c'est un manque de respect pour les personnes à qui il a fait du mal par le passé. Tu sais, en termes de gestion de crise, là, à un moment donné, tu sais, disparaître pendant quelques années et comprendre c'est quand le bon moment pour peut-être faire un retour. Ce qui s'est passé aussi récemment pour lui et que je pense qu'il a vraiment tué ses chances de pouvoir revenir dans l'espace public, c'est la grosse annonce de juste pour rire, bing, away. Puis là,
en effet, ça l'a tué parce que c'est devenu trop gros pour rien.
C'était trop gros pour rien. Mm-hmm. Il était également porte-parole d'un organisme pour les jeunes qui sont pris avec des problèmes de toxicomanie. Et l'annonce qu'il se retire aussi comme porte-parole, honnêtement, je lui souhaite de continuer à s'impliquer quand même dans tout ça, si sa démarche est sincère. Il y a quand même des cas de gens qui ont eu des gestions de crise importantes à faire et qui s'en sont sortis. Je pense à Marie-Pierre Morin, qui a fait les choses, je pense, peut-être un peu plus correctement. Elle en a même fait une business, là, parce qu'elle disait qu'elle avait des problèmes d'alcool. Elle a maintenant une business de mocktail et tout ça. Mais ça se fait. C'est pas vrai que les gens ne peuvent pas du tout pardonner. Ça dépend de la gravité des gestes qui ont été posés et ça dépend de la manière dont tu abordes la chose par la suite et de ton respect pour les gens qui t'ont fait.
Ouais, puis j'aime que tu nous amènes vers le fait qu'il a tenté de le rusher. En une phrase, le PQ est-il trop frileux avec le vote pour les personnes itinérantes?
Une phrase pour un sujet aussi complexe. On aura l'occasion d'en reparler, mais juste dire qu'il y a un projet, il y avait un projet pilote qui était à l'essai pour la prochaine campagne électorale pour que les personnes itinérantes aient davantage accès au vote. Elles ont déjà le droit de voter si... Il y a des manières de contourner le fait que tu n'aies pas d'adresse, mais on voulait mettre des bureaux de vote dans les organismes communautaires et le PQ avait de grandes réticences. On en reparlera à un autre moment, mais tout ça pour dire que ça n'aura pas lieu pour la prochaine campagne électorale parce que ça prenait l'unanimité. C'est un enjeu qui est complexe. Et l'itinérance a beaucoup changé dans les dernières années, hein, avec des gens qui se retrouvent dans des situations d'itinérance aussi de manière plus temporaire, avec un visage de la pauvreté de l'itinérance qui a changé. Je pense que ça va être un enjeu dont on va avoir amplement l'occasion de
discuter. On en reparlera. Et on parlera demain de cette contestation de la loi sur la laïcité devant la Cour suprême. Tu as écrit une excellente chronique sur le site de Novo TV. Alors, Novo Info, devrais-je dire. Alors, je veux t'entendre. Là-dessus, ça va être la dernière journée, justement, demain, des représentations devant la Cour suprême, donc on en discutera.
Oui, on aura l'occasion aussi d'en parler parce que c'était une des plus grosses causes, plus longues aussi, représentations devant la Cour suprême et c'est une décision qui va avoir des impacts sur un paquet de choses, puis notamment, je pense, sur l'équilibre de la Fédération canadienne. Ouais. Donc, on va continuer de suivre ça ensemble. Sinon, en attendant, bien, vous pouvez aller lire ma chronique sur Nouveau Info.
Puis les juges de la Cour suprême vont-ils avoir le courage de donner leur décision avant les élections provinciales? C'est la grande question. Anto, toujours un bonheur de te parler. On se parle demain à midi. À moins qu'on ait une grosse entrevue encore.
À moins.
Je ne sais pas. On ne sait jamais ce qui se passe en Angers. On le sait juste deux minutes avant d'entrer en onde. Après la pause, Pierre-Paul Biron du Journal de Québec sera avec nous pour nous parler du procès de Mathieu Martel, cet entraîneur de cheerleading qui est accusé présentement d'agression sexuelle envers plusieurs de ses cheerleaders dans son équipe. Et également, on va parler avec prof Sylvain Duclos, deux excellents articles dans la presse dans les derniers jours. Le premier, le cellulaire, l'interdiction du cellulaire à l'école, savez-vous quoi? Il y a une baisse de la violence. Hey, on est content. Le deuxième, ouch! Hausse de la violence envers les adolescentes dans les écoles secondaires à Montréal. C'est la même chose à Québec. On va parler de ça avec le prof Sylvain Duclos au retour de la pause à Boulevard 101, l'émission d'En Jase. Matériau Odette Timbermark, tu connais? C'est une entreprise familiale québécoise qui est à votre service depuis 1946 pour vos petits et grands projets. Ah, tu as une salle de bain à refaire qui est restée figée dans le temps, dans les années 90. tu dis, bah, ça serait le temps de changer les planchers. Eh, OK. Je donnerais un petit coup de peinture pour le printemps. Ben, pourquoi pas un petit patio cet été? Ben, c'est chez Matériaux Odette Timbermark que tu vas trouver le tout. C'est le temps de rénover. Rénover avant l'été. Et on a du choix à la tonne pour vos matériaux de construction et de rénovation. Tu te demandes où trouver le tout? Matériauxaudet.ca. Parce que Matériaux Odette Timbermark est complice de vos projets depuis 1946.
Longer tout ce qui se passe dans notre ville, tout ce que vous devez savoir. Jusqu'à 14h, on en jase.
Je préviens, on jase.
Oh oui, on jase de tout ce qui te concerne dans l'actualité, en politique, également en sport. C'est l'émission On en jase, si t'es pas habitué, c'est ça. C'est un feu roulant d'actualité pendant 2 heures sur les ondes de Boulevard 101, de midi à 14h. À la météo, moins 2 degrés généralement ensoleillé. Ce soir, c'est moins 6 avec quelques flocons. On parle d'une accumulation même qui pourrait aller jusqu'à 5 cm de neige. Demain, 26 mars, neige intermittente devenant mêlée de pluie en après-midi. Risque de pluie verglaçante tôt le matin, alors soyez prudents. Partez plus tôt de la maison. Accumulation de neige de 2 à 4 cm. Et pour vendredi, ça sera ensoleillé. À moins 5 degrés. Pascal, on a le journaliste Pierre-Paul Biron. Au bout du fil, il va nous parler des procès du procès de Mathieu Martel et de la décision justement concernant un chauffeur, Éric Légaré, de pouvoir avoir des sorties de prison. Sinon, qu'est-ce qu'on a à suivre dans l'actualité?
Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, est convoqué devant le comité des langues officielles à Ottawa. On lui reproche les condoléances unilingues qu'il a offertes aux proches des pilotes, dont un Québécois, qui sont décédés dimanche soir dans le tragique accident d'avion survenu à LaGuardia, à New York. Dans la motion adoptée à l'unanimité par les députés, on peut lire que la déclaration de Rousseau est incompatible avec les obligations prévues par la loi sur les langues officielles et les attentes du public canadien. Il va devoir s'expliquer pendant une heure devant les parlementaires le 1er mai prochain. Et à Québec, ici, François Legault a aussi demandé sa démission. Julien Lacroix quitte l'humour. Il en a fait l'annonce aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. L'humoriste de 33 ans reconnaît qu'on a eu des comportements problématiques de son côté, mais réaffirme n'avoir jamais violé qui que ce soit et dit ne pas reconnaître le portrait de prédateur que certains lui ont fait. C'est officiel, le chauffeur de camion dit Chauffeur Inc. qui a causé la mort d'Alexandra Poulin, 26 ans, dans un accident à Vallée-Jonction en 2024, fait face à la justice. Mossane Issanoula, 40 ans, a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Le juge lui a accordé sa liberté, Jeff, en attendant la suite des procédures. Mandat d'arrestation qui fait état de deux choses. Deux infractions alléguées, négligence criminelle causant la mort, puis une autre de conduite dangereuse causant la mort. L'audience est déterminée au mois de mai. Et effectivement, dans l'actualité, on a Éric Légaré, celui qui a décimé une famille de Beauport, qui pourra avoir des sorties mensuelles sans supervision. Ça vient d'être tranché. Le chauffeur, je vous rappelle, c'est 4 membres d'une même famille en septembre 2021 qui l'a tué et s'est vu autoriser ces sorties-là pour entretenir ses rapports familiaux et préserver des liens significatifs avec ses proches. Il y a beaucoup de choses dans l'article.
On parle justement avec Pierre-Paul Biron, journaliste au Palais de justice de Québec pour le Journal de Québec. Pierre-Paul, merci beaucoup pour ta disponibilité.
Toujours un plaisir, Jeff.
Pierre-Paul, on commence justement avec le chauffeur Éric Légaré. Même pas 4 ans après sa peine de 15 ans de prison, il va pouvoir aller passer 72 heures chez ses parents. Si je suis la famille et pleurer, ça doit vraiment venir me fâcher, cette situation-là?
Évidemment, pour les proches, c'est une décision qui est probablement pas la décision qu'on attendait. Mon collègue Jérémy Bernier avait couvert l'audience il y a quelques jours de ça devant la commission des libérations conditionnelles. Et le père de Jackson Fortin, Daniel, avait livré un poignant témoignage. Évidemment, les proches s'opposaient à cette décision-là. Lui disait que le cauchemar perpétuel dans lequel lui et les autres proches en deuil sont plongés, il n'y a rien qui ramènera ça. Et puis, pour eux, Légaré devait purger sa peine. Puis ces permissions-là arrivent beaucoup trop rapidement. Puis, ce que M. Fortin disait, c'était que avec cette demande-là, pour lui, Éric Légaré montrait qu'il n'avait pas de remords, ne pensait qu'à lui-même. Puis, voilà. Il faut savoir que dans le processus correctionnel, ces permissions-là sont prévues. C'est étudié par des commissaires de la commission qui ne font que ça. Il y a plusieurs facteurs, évidemment, qui sont pris en compte. La vie des familles éplorées l'est toujours. La preuve, c'est que M. Fortin a témoigné à l'audience. Il y a des lettres aussi d'autres membres de la famille qui ont été déposées. Puis dans son rapport, la commission évoque ça en disant évidemment que ces gens-là sont toujours en deuil puis que c'est une décision qui sera difficile pour eux, mais qu'il y a plusieurs autres facteurs qui sont à prendre en considération et que, selon eux, Éric Ilgaré montre dans son cheminement une progression suffisante des acquis aussi, parce que, bon, on nous explique que Ilgaré a suivi des thérapies, a suivi divers programmes qui lui ont permis de faire des acquis et que là, dans son cheminement vers la réinsertion, ben, les commissaires estiment qu'on en est rendu là, lui permettre certaines permissions de sortie sans escorte. Mais ce sera pour aller chez les proches. Et ce qu'on explique dans le rapport, c'est que, bon, les commissaires estiment que c'est le temps qu'ils soient confrontés à la société, peut-être de rencontrer des gens qui ne seront pas d'accord avec les gestes qu'il a posés, évidemment, ou qui ne seront pas d'accord avec le fait qu'il soit libéré pour voir comment un individu qui est incarcéré depuis quelques années dans le cas de Ilgaré, hein, qui a commis un crime, a pu gérer ces interactions-là en société. Un mécanisme qui est prévu, évidemment, ça peut paraître choquant. Pour les proches, ce l'est bien, évidemment. Donc voilà, c'est la décision à laquelle en sont venus les commissaires. Et après avoir entendu Ilgaré témoigner aussi là, lors de l'audience.
Pierre-Paul, peut-être pour cette prochaine question-là, je ne sais pas si c'était sur un Bluetooth, en main libre, mais mettre le combiné directement sur ton oreille. C'est particulier, il a aussi demandé à avoir un genre de droit de sortie pour aller voir une femme du côté de Laval. On lui a refusé parce qu'on dit qu'on n'est pas capable de spécifier, d'être certain de la relation qu'il a avec cette femme-là. Tu l'as dit, c'est un gars qui n'a pas démontré beaucoup de remords. Mais dans la situation, par contre, on précise que ses problèmes d'alcool seraient peut-être liés justement à une relation qu'il avait dans le temps et qui se passait mal. C'est beaucoup d'informations à démêler, là.
Bien, c'est ce qui montre que les commissaires évaluent chacune des situations et chacune des demandes au mérite, parce que là, on permet à Ilgaré d'aller passer une fin de semaine par mois chez ses parents. Par contre, cette dame-là, la relation n'est pas... les contours de cette relation-là sont pas parfaitement définis. Ce qu'on comprend dans le rapport, c'est que Ilgaré a expliqué que, pour l'instant, c'est des premiers balbutiements, c'est des débuts de relation, mais que ça pourrait devenir quelque chose d'important et de significatif pour lui. Et là, les commissaires y ont vu un facteur de risque, parce que ce qui a mené aux événements de l'automne 2021, à cette tragédie-là, ça avait été démontré que il y avait des difficultés relationnelles avec une femme, des difficultés conjugales dans les semaines, les mois précédents la collision qui a fait 4 victimes, et que c'est un des éléments qui avait exacerbé sa consommation d'alcool. Et on le sait, Ilgaré sortait d'un pub, avait passé l'après-midi dans un pub, a décidé de prendre le volant, était complètement intoxiqué au moment de la collision. Donc, face à cette demande-là, qui peut on ne connaît pas l'avenir, là. Tout peut se passer très bien dans cette relation-là, puis ça peut être positif, mais il y a aussi un risque que ça se passe pas comme lui le voudrait, puis que ça puisse venir ramener en bon français des vieux démons. Mm-hmm. Donc les commissaires ont estimé que cette demande-là comportait trop de risques et on lui a refusé. Donc c'est ce qui démontre un peu que chacune des demandes, chaque volet de ces demandes-là sont appréciés au mérite. Et il faut savoir aussi, je parlais des proches tout à l'heure, il y aura des interdictions pour Éric Ilgaré de se trouver dans plusieurs secteurs entourant la ville de Québec et même dans la région de Montréal, là, même s'il peut pas techniquement s'y trouver parce qu'il devra passer les week-ends chez ses parents, dans la grande région de Québec où demeurent les proches des 4 victimes. Ben, Ilgaré pourra pas se retrouver dans ce secteur-là de la ville afin d'éviter à ces gens-là de tomber nez à nez avec lui ou de le croiser, comme c'est des permissions de sortie sans escorte, là. C'est une des possibilités, donc la commission qui lui interdit là, de se trouver dans certains secteurs de la ville.
Suite du procès de l'entraîneur de cheerleading Mathieu Martel, accusé d'agression sexuelle sur plusieurs de ses athlètes. Hier, en interrogatoire avec son avocate, il a avoué avoir eu des relations sexuelles, le fameux trip à trois avec une de ses athlètes, mais il dit qu'elle avait alors 16 ans et non 14 ans et qu'il était complètement en amour avec elle. Comment tout ça s'est passé dans la salle d'audience?
C'est un moment, je le cache pas, qui est un petit peu particulier parce qu'on est dans un procès avec un accusé qui a plaidé non coupable à plusieurs chefs d'accusation, notamment les chefs d'accusation qui impliquent cette plaignante-là. Elle avait déjà témoigné des événements allégués.
Témoignage très difficile aussi. Hein?
Oui, tout à fait. Tout à fait. Un témoignage poignant qui s'est fait en deux parties parce qu'elle a demandé justement la suspension de son témoignage parce que c'était trop difficile. Est-ce qu'elle expliquait si sa première relation sexuelle se passe dans ce fameux trip à trois-là avec Mathieu Martel et une autre entraîneur du club Le Phoenix? Martel prenait la barre hier pour sa défense et il a admis au juge que oui, les événements entourant cette jeune athlète-là étaient bel et bien survenus, qu'il y avait eu des rapprochements entre eux. Lui situe bon ses relations sexuelles complètes là un peu plus tard là, à partir du moment où elle avait 16 ans plutôt que 14. Elle avait témoigné avec conviction se souvenir de la date précise d'une relation qui serait survenue en 2011. Bref, le juge devra apprécier ces deux témoignages là, mais Martel qui est venu admettre bon les relations sexuelles et même ce matin a admis là en contre-interrogatoire certains rapprochements avec cette jeune fille-là avant qu'elle ait 16 ans. Il faut savoir c'est que ça va jouer sur l'âge du consentement là-dessus parce que l'âge du consentement sexuel dans le code criminel est de 16 ans. Donc, ça donne l'impression que Martel fait peut-être le pari de vouloir placer cet événement-là après les 16 ans de la jeune femme. Mais il y a toute la notion aussi d'entraîneur, de propriétaire du club de cheerleading.
Ouais, de lien d'autorité, hein, Pierre-Paul?
Donc, c'est ça, c'est ce lien d'autorité-là qui pourrait techniquement venir vicier ce consentement-là. Donc, ça se poursuit, le contre-interrogatoire de Martel qui a débuté ce matin. On a abordé au départ des éléments plus périphériques, mais là, on rentre vraiment dans le contenu des témoignages des plaignantes pour avoir la version des faits de Martel. Lui, au-delà de la plaignante principale de qui on a parlé là déjà, sur le reste, c'est une négation générale. Là. Les athlètes qui affirmaient avoir des contacts aux fesses, aux seins, aux parties intimes lors d'entraînement de cheerleading et tout ça, lui dit non, ça n'est tout simplement pas arrivé. Ce qu'il dit, c'est d'avoir eu là, lors de manipulation, de spotting en bon français, là, de mouvement de cheerleading, à certains moments effleurer une fesse ou autre, mais rien de sexuel pour lui. Donc à suivre pour ce qui reste, là, le contre-interrogatoire se poursuivra cet après-midi.
Pierre-Paul Biron, journaliste du Journal de Québec au Palais de justice de Québec, merci beaucoup d'être présent pour nous à l'émission d'En Jase. Et on va se reparler certainement là, de ce procès de Mathieu Martel, là, qui est un procès très suivi ici dans la région de Québec, surtout dans le domaine du cheerleading.
Yes, merci à vous autres de votre journée.
Merci Pierre-Paul. Salut. Pierre-Paul Biron, Journal de Québec. Lisez ses textes. Il est toujours excellent sur poursuivre l'actualité judiciaire pour nous dans le Journal de Québec.
On en jase. Le show que tu commences au bureau, que tu poursuis à la commande à l'auto, puis que tu finis jusqu'à la dernière seconde avant ton meeting avec ton boss. On en jase. À Boulevard 102.1.
418-971-1021 pour réagir avec nous, parce que je suis certain que le prochain sujet va vous faire réagir avec le prof Sylvain Duclos. Pascal, as-tu déjà été victime de violence à ton école secondaire?
Non, ça n'a pas fait partie de mon parcours. Par contre, j'ai été témoin de violence. Puis ça venait beaucoup me chercher, moi, jeune.
Ah oui, moi, nous, on était une gang de 10 boys à l'école Cardinal Leroy, puis on réglait ça, nous autres, les cas de violence.
Bien, sûrement par un genre d'autorité quelconque.
Ouais, ben,
moi, j'en avais pas tant, tu sais. J'étais tout le temps fine, tout le temps... Pas grandir, ouais. Pas dire quelque chose.
Nous autres, on réglait ça en parlant dans le casse au monde.
Mais clin d'œil sur quelque chose avant d'incorporer notre invité. La semaine passée, j'allais pour un souper de fête.
Oui.
J'étais dans cinq fois. Gang de boys, genre secondaire.
Oh, oui.
Ils sont dehors puis ils sont pas à l'école. Mm-hmm. Commence à chamailler. La gang en pousse un pas à peu près sur la pelouse gelée.
Oui, oui.
Puis ça, clairement, ça y a fait mal. Puis il y en a un autre qui arrive, puis on dirait qu'elle allait le botter. Hey, là, il y a quelque chose de moi qui est ressorti. T'sais,
t'as lâché un cri de mort.
Estime de toi à 32 pour te virer vers des jeunes. Puis moi, je fixais, puis j'étais avec mon chum.
Hey,
puis lui, il me tirait.
Bombes.
Il dit, viens-t'en. Puis je dis, non. Moi, je veux m'assurer que c'est correct, puis le petit gars, il n'est pas en danger ou quoi que ce soit. Mais ça, dans les écoles, ça doit arriver régulièrement. Là.
Exactement. Comment on agit avec ça? Parce que hausse de 38% dans la région de Montréal, hey, des gestes de violence envers nos adolescentes. Et pour en parler avec nous, on a le prof Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques ici dans la région de Québec. Prof Duclos, comment vas-tu?
Hey, ça va super bien. Salut Jeff, salut Pascal.
Salut. Prof, tu vois-tu ça dans la région de Québec aussi, de monter des gestes de violence envers nos adolescentes?
Écoute, dire qu'il y a une montée des gestes de violence dans la région, je ne suis pas prêt à le dire. Je pense qu'on ne peut pas affirmer ça aussi facilement. J'ai lu l'article comme vous ce matin, puis moi, l'impression que j'ai au minimum, je pense qu'on fait tellement de prévention qu'au minimum, nos jeunes sont plus conscients de qu'est-ce que des gestes de violence. Peut-être qu'il y a des choses qui passaient avant sous silence. Puis là, nos jeunes savent que c'est de l'intimidation, c'est de la violence à caractère sexuel aussi. Je pense qu'on est de plus en plus conscientisés à ces enjeux-là, ce qui déjà là n'est pas mauvais.
Est-ce que, parce que dans l'article, on parle de rassemblement dans les corridors, autour de cases, tout ça. Comment ça se passe, la surveillance des casiers dans ton école puis dans les écoles en général pour empêcher que ça arrive, ça?
Bien, je vous dirais, dans les écoles en général, je ne pourrais pas dire. On a des surveillants d'élèves qui circulent dans les corridors, qui défont les rassemblements, qui s'assurent que tous les élèves soient le mieux possible. Bien entendu, il faut arriver sur les faits. Hein. Une école, l'école secondaire, c'est grand. On n'a pas 10 000 surveillants non plus. Donc, il faut arriver sur les faits. Sinon, s'il y a des situations qui sont problématiques, bien, il faut que ce soit dénoncé par les jeunes. Mais on sait qu'il y a une grande culture d'omerta dans les écoles. Puis ça, c'est pas d'aujourd'hui, là. À mon époque, déjà, lorsqu'il se passait des choses, on ne voulait pas être le stool. Aujourd'hui, ils disent le snitch qui vient raconter aux surveillants. Donc, c'est difficile de faire la surveillance et de s'assurer que tout soit correct, mais on fait notre gros possible avec tous les intervenants.
Oui, mais les cellulaires ont joué pas beaucoup, je pense, dans cette exacerbation de violence-là. T'sais, qu'il y en ait de plus en plus. Ça commence à la maison, ça continue dans les activités la fin de semaine, puis ça se répertorie. À l'école, j'aurais pensé qu'à l'école, on se gardait une petite gêne parce que, justement, ouais. Il y avait des sanctions. Sont-elles assez fortes, ces sanctions-là?
Bien, il y a une question de sanctions, il y a une question de prévention aussi. Les sanctions, est-ce qu'elles sont toujours assez fortes? Je ne suis pas prêt à dire ça. Je pense qu'on veut garder nos jeunes sur les bancs d'école le plus possible. Puis malheureusement, des fois, il y a des sanctions qui se perdent. Pour avoir des bonnes sanctions, il faut aussi que les parents soient de la partie et qu'ils travaillent avec
les abordes le point que je voulais apporter. Les parents qui voient leur enfant comme Dieu le Père, là, t'en frappes-tu de plus en plus? Parce que moi, je coach au hockey, là. Puis des fois, c'est pas évident de faire comprendre aux parents que ça serait le fun qu'il y ait une intervention un petit peu plus ciblée puis peut-être un petit peu plus droite comme mon père me faisait dans le temps.
Bien, il y a deux choses là-dedans. Tu m'as coupé dans ma phrase, Jeff, c'est bien correct.
Hey, je m'excuse.
C'est correct. Oui, il y a une certaine partie des parents, c'est pas la majorité, qui effectivement sont très amis avec leurs jeunes, veulent pas trop de sanctions puis ne comprennent pas qu'ils n'ont pas le même jeune à la maison que nous avons à l'école. À l'école, il y a l'influence des amis. Le jeune a un statut social qui est différent de la maison, puis il n'y a pas les mêmes interrelations avec les adultes de l'école qu'à la maison. Donc, faire cette distinction-là, puis voir qu'on n'a pas le même enfant à la maison qu'à l'école, c'est difficile. L'autre chose aussi, c'est que quand les parents ne sont pas à la maison, par exemple, un jeune qui ferait des actes de violence et qui serait en suspension, bien, si on l'envoie à la maison, par exemple, je veux dire, pour 3 jours, bien, si le parent n'est pas là, au final, parce qu'il va travailler, puis c'est bien normal, puis que le jeune, il game toute la journée, qui passe sa journée sur sa PS5, on s'entend qu'on n'a pas des grosses sanctions. Puis au final, le jeune, il a eu un congé de 3 jours. Donc, on peut se questionner sur ça aussi.
Oui, ça, c'est sûr que ça fait partie des paramètres modernes. Hein? Autre question. Dans mon temps, j'ai 32. Des fois, c'est les intimidateurs qui gagnaient sur la personne intimidée. La personne intimidée, on dirait qu'il y avait certains établissements qui ne savaient plus quoi faire avec ça, puis pour arrêter l'hémorragie de violence ou de choses qui étaient portées contre ces jeunes-là. Puis on le changeait d'école. La personne intimidée était celle qui changeait d'école. C'est encore comme ça, malheureusement?
Je te dirais que quand j'ai commencé à enseigner, on a une mode qui est arrivée, c'est-à-dire qu'on garde de plus en plus les jeunes dans leur milieu, que ce soit intimidateur ou intimidé, là. C'est-à-dire qu'on connaît le jeune, on a déjà commencé les interventions, donc le changer de milieu, le fond, c'est si on change de milieu, il va recommencer ailleurs. Donc, on est mieux de le garder dans son milieu. Donc, malheureusement, il y a des interventions qui parfois se perdent et il y a des jeunes qui sont intimidés, qui perdent patience ou qui sont tellement en détresse, qui effectivement finissent par changer d'école, ce qui est un drame monumental. Ça ne devrait jamais être la victime qui change de milieu. Il y a aussi une question, des fois, de compétences personnelles chez nos jeunes intimidés. Il y a des jeunes qui, malgré eux, attirent l'intimidation et avec qui on doit travailler pour qu'ils développent des compétences pour ne pas être les victimes perpétuelles.
Tu veux dire quoi, des compétences sociales?
des compétences sociales. Il y a des jeunes qui, malgré eux, n'ont pas développé les compétences sociales avec les autres, qui, sans le vouloir, cherchent le trouble ou se posent en victime. On le sait, là, on l'a tous déjà vu dans notre jeune temps, mm-hmm. des jeunes, on savait déjà en arrivant à l'école que lui serait intimidé par les autres, malheureusement.
On parle avec le prof Sylvain Duclos, enseignant en mathématiques dans la région de Québec. On parle de la montée de la violence envers les filles dans les écoles secondaires de Montréal et on fait le comparatif avec Québec. Autre texte intéressant hier dans la presse, prof Duclos, c'est le fait qu'on interdit les cellulaires à l'école puis que ça amène moins de bagarres parce que je peux plus mettre ça, ces médias sociaux, ma bataille, puis me vanter de ça avec mes amis. Coudonc, c'est une bonne chose qu'il n'y ait plus de cellulaire à l'école.
Ouais, là, ça, j'ai un gros doute là-dessus.
Ben, OK, merci, j'avais le même doute.
J'ai un gros doute. Je pense qu'on a pris des citations de un ou deux jeunes et on les a montées un peu en épingle là-dessus. Je ne suis pas prêt à faire ce lien-là, ce constat-là. Oui, il y avait un attrait de filmer, de partager sur les réseaux sociaux, effectivement. Mais ce qu'on remarque, c'est que oui, il y a plus d'interactions sociales. Oui, il y a des choses positives avec l'interdiction du cellulaire. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui quittent les écoles sur l'heure du dîner pour aller manger ailleurs parce qu'ils veulent être sur leur appareil ou être entre eux avec moins de surveillance de plus en plus. Donc, peut-être qu'il y a de la violence qui s'est déplacée des cours d'école pour aller ailleurs.
Oui, mais ça, c'est difficile à être arrêté, par exemple. Un peu intéressant de voir que ça s'est amélioré, par exemple, sur le fait qu'on a enlevé les cellulaires. Il y a tellement eu de gens qui capotaient dans cette mesure-là. Est-ce qu'on peut donner à Bernard Drainville, qui est actuellement candidat à la chefferie de la CAQ, qui l'a vu juste malgré tout, malgré que ça ait fait un peu paternaliste?
Ben, moi, j'ai été le premier à dénoncer cette mesure-là mur à mur. Hein. Puis oui, je pense qu'on peut donner ça à M. Drainville, mais je pense que ce qu'on peut lui donner, c'est qu'il a écouté. Il a écouté, ça venait de tous les partis. Il y a eu une commission transpartisane sur les écrans. Puis M. Drainville, il a des forces, mais écouter les autres n'a pas toujours été sa force. Et cette fois-là, il l'a fait. Puis finalement, ça l'a donné de bons résultats. Fait qu'on va lui donner ça.
Alors, à retenir pour Bernard Drainville pour sa fin de campagne comme candidat à la chefferie de la CAQ. Écoutez, M. Drainville, écoutez. Prof Duclos, toujours un bonheur de te parler. Je te souhaite un bel après-midi avec tes élèves.
Merci, bonne journée.
Salut,
merci.
Sylvain Duclos, enseignant de mathématiques dans la région de Québec. Il est notre expert en éducation. Dans un instant, Boulevard 102, on va parler avec Lambert Drainville. Il y a une mise à jour concernant Michael Rousseau. Donc, on va jaser de ça avec Lambert Drainville. Et on va aussi parler de sa rencontre avec Charles Milliard.
Peut-être la nommer, par exemple, cette mise à jour. Parce que l'entreprise, donc Air Canada, qui est dans cette tempête linguistique-là, affirme que son président et chef de direction, Michael Rousseau, il entend rester en poste, malgré les appels à sa démission. On le dit, François Legault le demande, on le critique un peu partout, Ottawa l'a convoqué, mais on a dit et on répète que c'était pour s'exprimer rapidement sur l'accident mortel survenu à LaGuardia à New York, que son message était essentiellement en anglais. C'est ce que plaide l'entreprise.
Merci beaucoup, Pascal. C'est dans un instant, Lambert Drainville vient s'installer. On fait un gros bloc news également avec Pascal. C'est à l'émission Dans Jazz sur Boulevard 102. Hein? 13h18. On n'est pas encore rendu à l'autre. Ça va être tenté, ça. Là, on est en plein après-midi. De midi à 14h, c'est l'émission Dans Jazz. Ton résumé d'actualité à la météo. Moins 2 degrés, généralement ensoleillé. Préparez-vous à de la neige ce soir parce que c'est moins 6 avec accumulation de neige de 5 cm. Demain, cocktail météo, les amis. Neige intermittente, pluie en après-midi, risque de pluie verglaçante tôt le matin. Alors prévoyez vos déplacements en conséquence. Une autre accumulation de neige de 2 à 4 cm. Le soleil est retour vendredi à moins 5 et samedi à moins 7 degrés. Je vous parle d'une nouvelle activité vraiment plaisante. C'est le Red Bras du Nord Promutuel Assurance, qui est le plus gros rassemblement de vélos de montagne au Canada. L'événement se déroule sur 3 jours, du 21 au 23 août. Et c'est le temps de vous inscrire parce qu'il y a 20% de rabais en pré-vente jusqu'au 31 mars sur les courses du 22 août. C'est simple, il y a 5 distances entre 20 à 75 km. C'est à la hauteur de tous les niveaux. Et en plus, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'il est possible de vivre l'événement entre collègues de travail au défi corporatif du vendredi 21 août, une boucle à relais de 5 km. L'événement présente aussi 2 soirées de spectacles gratuits et une ambiance festive pour toute la famille durant la fin de semaine. En tant qu'organisme à but non lucratif, Les profits sont remis à des organismes de la région de Portneuf ayant pour objectif de promouvoir le sport amateur. Quel bel événement qui permet en même temps de faire rayonner les jeunes dans le sport. C'est au www.reddubrasdunord.com pour vous inscrire. Rendez-vous également sur la page concours du blvd.fm et vous pourriez gagner votre inscription pour 4 personnes au défi corporatif du vendredi 20 août. Vas-y tout de suite, là, blvd.fm, section concours, va inscrire ta gang et tu pourrais participer au défi corporatif, c'est-à-dire la course à relais sur un parcours de 5 km. C'est-tu pas beau comme événement, ça, Pascal CV?
Profitez-en bien.
Oh yes, profitez-en. Pascal, sinon, dans l'actualité, qu'est-ce qu'on suit d'important à l'heure actuelle?
On avait en entrevue Maïté Blanchette Vézina, la nouvelle recrue du Parti conservateur du Québec en début d'émission. L'entrevue, en passant, est disponible sur le blvd.fm. Mais ça fait réagir, et ça fait réagir qui? Éric Kerr, l'actuel député de la Pelletrie. Lui, il juge sévèrement la décision de la nouvelle recrue conservatrice de venir se présenter dans son comté. Je vais vous le citer, tiens. Elle a dit qu'elle quittait la CAQ, entre autres, parce qu'elle voulait une meilleure défense des régions. Et la première chose qu'elle fait, c'est de quitter un comité en région pour se présenter à Québec.
Exactement, dans la Pelletrie.
Il y en a un qui...
C'est super région, ça, la Pelletrie.
Il y en a un qui remet en doute sa crédibilité. Il dit on peut se poser des questions. Et c'est toujours aux électeurs de décider. La veille, je vous rappelle, Mme Blanchette Vézina avait annoncé avec le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, qu'elle rejoignait officiellement son parti. C'est sûr qu'il veut peut-être défendre son lopin de terre. Hein,
peut-être bien.
Sinon, dans les choses un peu tragiques de la journée, je dois dire, c'est officiel. Le chauffeur de camion, dit chauffeur Inc., là, qui a causé la mort d'Alexandra Poulain, 26 ans, dans un accident à Vallée-Jonction en 2024, fait face à la justice. Mossan Issanoula, 40 ans, a comparu aujourd'hui au Palais de justice de Québec. Le juge y a accordé sa liberté en attendant la suite des procédures. Le mandat d'arrestation fait état de deux infractions, donc négligence criminelle causant la mort, puis une autre de conduite dangereuse causant la mort. L'audience sera déterminée au mois de mai. Il s'agit d'une première arrestation dans le dossier. L'enquête se poursuit, c'est ce qu'a dit la Sûreté du Québec. Éric Légaré, celui qui a décimé une famille à Beauport pour avoir des sorties mensuelles sans supervision, c'est le chauffeur qui a tué 4 membres d'une même famille en septembre 2021. Donc, ce sont des sorties pour entretenir ses rapports familiaux et préserver des liens significatifs avec ses proches. Par contre, il n'a pas le droit de contacter les victimes, de se trouver dans le territoire de Lévis, Stoneham, la côte de Beaupré, entre autres. Il a 48 ans, il devrait aussi s'abstenir de consommer ou de se procurer de l'alcool ou de la drogue. Ça fait beaucoup réagir aujourd'hui. Autre chose, c'est Julien Lacroix, l'humoriste qui quitte l'humour, donc feu l'humoriste. Il en a fait l'annonce aujourd'hui sur ses réseaux sociaux. Il a 33 ans et il reconnaît qu'il y a eu des comportements problématiques, mais il affirme à nouveau n'avoir jamais violé qui que ce soit et qu'il ne reconnaît pas dans le portrait de prédateur celui qui pense que certaines personnes... Il ne se reconnaît pas. Dans le portrait de prédateur, c'est que je veux vous faire entendre une clip d'un avocat criminaliste qui s'appelle Alexandre Langlois, à qui j'ai parlé ce matin et je lui ai demandé est-ce que le tribunal public est parfois pire que le tribunal, point.
Le coût de passer là, devant le tribunal public est beaucoup payé plus cher que le vrai passage là, devant une cour dans une situation, par exemple, de fausse accusation. Si on prend le cas là, d'un individu qui serait visé par des accusations qui sont non fondées ou basées sur... une plainte qui s'avérerait être fausse ou rejetée, on s'entend là, que l'individu, dans le cadre de son emploi, pourrait réintégrer son emploi, surtout qu'il n'a pas été reconnu coupable ou que les accusations ont été rejetées pour diverses raisons. Donc c'est certain que cet individu-là, mis à part l'immense stress du passage à la cour, pourrait poursuivre son train de vie quotidien tel qu'il l'avait avant. Dans le cas là, de quelqu'un là, qui est visé par le tribunal public, et on le voit de plus en plus, ces gens-là doivent faire face à des situations où, malgré le fait...
qui n'ont pas d'accusation et quoi exactement, que ce soit, ben, c'est pas mal terminé. Ça semble être le cas hein, pour Julien Lacroix. C'était quand même hors dossier, mais c'était global. On peut faire une corrélation.
Exactement. On en a parlé dans le caucus avec Antonine Iaccarini. Caucus qui sera disponible sur blvd.fm et également sur notre page YouTube. Abonnez-vous sur blvd.fm aussi. Vous avez la discussion qu'on a eue avec Pierre-Paul Biron du Journal de Québec concernant justement le chauffeur Éric Légaré et le procès de Mathieu Martel. Et notre entrevue avec Maïté Blanchette Vézina qu'on a fait en début d'émission s'y retrouve également.
Collision à LaGuardia. Les incursions de piste sont en hausse au Canada. C'est ce qu'a affirmé l'instance du Bureau de la sécurité des transports. Lundi, je vous présentais un dossier quand j'ai parlé à Charles-Éric Lamarche, qui est expert en aviation, et il l'avait déjà affirmé sur nos ondes. On l'écoute.
Bien, au Canada, on est extrêmement proactif là-dessus. J'ai été à l'Alliance du Bureau de la sécurité des transports, ils sont en augmentation, ces événements-là. On a de plus en plus de véhicules, on a de plus en plus de trafic. Nos utilisateurs aussi du réseau changent. Donc, comment on peut s'adapter pour limiter ce type de problématique-là? On en a eu un récemment au Brésil, 2024. Souvenez-vous, un avion sur sa course au décollage qui s'est fait passer devant par un camion de pompier, a frappé le camion de pompier. Donc, on a encore des accidents comme ça qui surviennent. On veut le réduire au maximum. L'année 2025, on a rapporté au Canada...
Alors, hausse quand même considérable là, des incursions sur les pistes au Canada. En 2024, c'est pas moins de 639. Et
on va certainement avoir des recommandations à la fin de cette enquête-là à la Gardia.
Et le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau, fait vraiment jaser. Hein. Il est convoqué devant le comité des langues officielles à Ottawa pour les condoléances unilingues. Hein. Il a été reproché de ça, ces condoléances unilingues, dans l'accident toujours de LaGuardia. Il les avait offertes aux proches des pilotes, dont un Québécois qui est décédé, et seulement en anglais. Il y a une motion qui a été adoptée à l'unanimité par les députés. On peut lire que la déclaration est incompatible avec les obligations prévues par la loi sur les langues officielles et les attentes du public canadien. Le PDG d'Air Canada un peu expliqué à travers l'entreprise dans les dernières minutes, bien qu'il va le faire pendant une heure le 1er mai prochain. Entre autres, il a dit, ben, essentiellement, c'est un message qui se voulait très rapide. On voulait rapidement exprimer nos condoléances et c'est ce que plaide son entreprise.
C'est ce que plaide Air Canada et c'est exactement ce qu'on va aller parler avec Lambert Drainville en plus de l'entrevue qu'il a effectuée avec Charles Milliard pour le bénéfice de ses médias sociaux. Lambert Drainville, vulgarisateur d'actualité que vous entendez sur nos ondes les mercredis et vendredis. Lambert a fallu sortir rapidement là, pour offrir nos condoléances à la famille, mais ça fait 5 ans que je devrais apprendre le français. C'est rapide, 5 ans, hein? J'ai pas eu le temps.
Bullshit!
Ah oui. Puis là, il faut le rappeler, nos condoléances à la famille. C'est épouvantable ce qui est arrivé à ces deux pilotes-là. Ça aurait jamais dû arriver. Mais Michael Rousseau et Air Canada nous prennent pour des valises au Québec, c'est le cas de le dire. C'est une compagnie d'aviation.
Oui, et c'est pas juste eux, là, on va y revenir, mais effectivement, je vais commencer en disant ça, Jeff et Pascal, que c'est vraiment triste parce qu'initialement, mon sujet de chronique était exclusivement mon entrevue avec Charles Milliard. On en aurait eu en masse de stock à parler pour le sujet d'aujourd'hui, mais c'est un élément, c'est un enjeu qui me met absolument hors de moi, et donc je vais quand même mentionner que c'est triste qu'on passe du temps à parler de ça et que ce soit pas que la lumière dans cette affaire-là ne soit pas simplement à envoyer la meilleure énergie possible et toutes nos condoléances aux familles qui sont touchées par les deux décès, dont un Québécois. Évidemment, il n'y a pas l'obligation légale de M. Rousseau de devoir absolument s'exprimer en français, là, mais ça demeure quand même une compagnie qui s'est faite sauver les fesses là, par les fonds publics durant la pandémie, 6 milliards, dont une partie de ça vient des taxes et des impôts que payent les Québécois. C'est une compagnie qui est basée à Montréal et c'est une compagnie qui est assujettie à la loi sur les langues officielles et pour n'importe qui a déjà volé sur un vol d'Air Canada. Oui, des fois ça se passe bien, mais oui, d'autres fois ça se passe moins bien aussi en termes de recevoir un service qui est à tout le moins correct dans notre langue. J'ai fouillé aussi les états financiers là, puis tous les documents qui ont en lien avec le conseil d'administration de cette entreprise-là. Puis l'insulte à l'injure est dans le bonus aussi. Là. On n'en parle pas beaucoup, mais ce gars-là, il a un bonus de performance associé à plusieurs éléments. Qui
clairement
ont pas rapport.
Que la langue française fait pas partie de la performance.
Mais je te confirme que le fait qu'il... C'est comment c'est verbalisé? C'est le fait qu'il fasse un effort d'apprendre la langue française fait donc partie de ces éléments de bonus. Je pense que c'est 1,7 million l'an dernier. Et donc, 50% de ça, c'est les incitatifs non financiers sur l'organisation, etc. Et le français en fait partie. Fait qu'on peut penser qu'il y a au moins plusieurs dizaines de milliers de dollars annuellement qui est reçu par ce gars-là parce qu'il dit qu'il fait un effort d'apprendre le français. Si ce n'est pas plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Donc, c'est un peu triste de voir que non seulement il s'en contrefout, mais il est payé grassement à travers notamment des bonus.
En plein ça. Lambert, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, je pense, moi et toi, puis dire à quel point ça n'a pas de sens ce qui se passe à Air Canada. Mais je veux absolument que tu nous parles de ta rencontre avec Charles Milliard, le nouveau chef du Parti libéral du Québec. Dans quel contexte tu l'as invité? Comment s'est passée cette rencontre-là? Et tu as également des extraits à nous faire entendre.
Ouais, bien... j'avais hâte de lui parler. Écoute, comme je lui ai dit durant l'entrevue, j'ai un peu l'impression d'être le 7-8e dans une soirée de speed dating. T'sais, lui, il a fait Paul Arcand, il a fait Tout le monde en parle, il a fait un article complet dans Le Devoir, dans la presse, il a fait tous les gros réseaux, toutes les grosses plateformes. Et finalement, il m'a répondu, ben écoute, Lambert, je faisais tout ça pour me réchauffer et me pratiquer en attendant de m'asseoir avec toi. Alors, il a un petit sens assez comique. Moi, c'était un peu ça que j'essayais de gratter durant l'entrevue. Tu sais, il y a vraiment le profil de l'enfant prodige, de l'enfant parfait. Il a grandi dans une famille de classe moyenne. Il est pharmacien, son frère est pharmacien. Il est grand, il est bronzé, il est beau, il a des belles dents. Là, j'étais comme, tu sais, y a-tu quelque chose qui retrousse, mon cher Charles? Puis... il m'a dit, vous aurez rapidement l'occasion de vous en rendre compte. J'ai, comme tout le monde, plusieurs défauts. Mais il m'a quand même agréablement surpris, bien honnêtement. Un sens comique assez le fun. Puis clairement, là, c'est un gars qui en tout cas, qui me donne l'impression à tout le moins qu'il sait où est-ce qu'il s'en va avec ses skis. Ce qui n'était pas une impression que me donnait malheureusement son prédécesseur, Pablo Rodriguez. Et tu sens aussi quand même qu'il est très lucide sur où est-ce que le parti se situe présentement. Par rapport notamment à tout ce qui s'est passé avant les fêtes. Il m'a confirmé, il m'a bien sûr dit, et je ne m'attendais pas, personne évidemment ne se serait attendu du contraire, qu'avec Charles Milliard, les enjeux de financement, les enjeux éthiques, les enjeux de Brownies, c'est bel et bien terminé. Alors, c'est dit, puis si jamais ça retrousse, ben Jeff, on sera les premiers à ressortir la clip.
Excellent, on l'écoute.
Bien, écoute, je suis obligé de te dire qu'en 2014-2018, ça a été beaucoup sur la restauration de l'équilibre budgétaire. Puis c'est pas sexy, l'équilibre budgétaire, mais en même temps, c'est ça qui permet d'assurer les missions de l'État. Mais
sur l'équivalent de ma question de tantôt, dans l'histoire récente du Québec depuis l'an 2000, Le moins bon coup, la plus grosse défaite du Parti libéral du Québec.
Bien, je pense que c'est c'est la perception sur la marque du parti, là. On se cachera pas que je suis pas content de ça. Puis il y a eu plusieurs enquêtes, il y a eu des procédures, il y en a encore. J'espère qu'il y a personne qui nous écoute qui pense que ça m'emballe, cette histoire-là.
Bien, il frappe dans le mille parce qu'en effet, tu sais, la corruption fait en sorte qu'il y a des gens qui vont se tenir loin du Parti libéral. Pour le deuxième extrait, vous avez jasé de quoi?
Un petit peu, là. Je dirais que j'ai un blanc, le deuxième extrait.
Veux-tu que je le fasse jouer pour le commente?
Ouais, fais-moi. Ben, juste commenter le premier. Le premier, dans le fond, moi, je me demandais, c'est quoi le bon coup et le moins bon coup du Parti libéral dans l'histoire récente, tu sais? Mettons, je te le demandais à toi, cette question-là. Tu réponds du quoi?
Ben, moi, je pense
depuis les années 2000, là, Charest, Couillard et compagnie. Là.
Ouais, ben, pour le bon coup, puis là, je me ferai peut-être pas d'amis parmi les villes qui ont été forcées de. Non, c'est pas vrai, parce que j'allais dire, c'est pas eux qui ont fait la fusion municipale, ils ont fait la diffusion municipale. Je suis en train de me mêler de gouvernement. C'est le PQ qui a fait la fusion. Ben, je te dirais le bon coup. Je pense que le fait que Couillard soit sorti avec 7 milliards dans les coffres, c'est un bon coup. Le moins bon coup, je te dirais que. On a très mal géré la grève étudiante, là, les carrés rouges. Ça aurait pu se régler sans toute cette crise sociale-là, selon moi.
Oui, je pense que c'est ça. C'est pas facile de trouver quand même un bon coup flagrant du Parti libéral dans l'histoire récente depuis les années 2000.
Ben non, je suis en train de leur en donner un qui ne leur appartenait pas, les fusions municipales.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, il y a des gens qui m'ont mentionné le plan Nord. Le plan Nord, ça a fait pouet-pouet.
Oui.
Moi, j'aurais répondu peut-être la gestion de la crise économique en 2007-2008. Je pense
bon
que
point.
Dans Charest qui était là, puis ça s'est bien passé pour nous autres. Puis lui m'a répondu, bon, c'est ça, la gestion des finances publiques sous Couillard, c'est sûr qu'on peut le voir de l'angle de, oui, on est arrivé avec la CAQ qui est rentrée avec un surplus de 7 millions. C'est quoi, c'était 7 millions, c'est pas beaucoup. 7 milliards, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'est sûr qu'on peut le regarder de cet œil-là, mais il y a aussi, il faut se rappeler quand même que ça a fait mal en bâtin. Même Carlos Leitao a dit que si c'était à refaire là, en éducation, il serait plus clément. Puis Martin Guay avait dit qu'il referait les choses différemment. Donc, on dirait que je trouve que ça parle un petit peu là, de
en
dire
effet.
Que ton coup, tu as même ton ancien ministre des Finances qui disait que ça avait fait mal. Là. Et pour le moins bon coup, c'est sûr que ce qui s'est passé avant les fêtes et la marque du parti, ça fait très mal. Pour la deuxième clip, vas-y donc, lance-moi ça puis on commence ça après.
Yes!
Est-ce que ça veut dire que je vais tout détruire ça au jour 1? Non. Parce que je pense que c'est complexe, c'est divisif. Mais on va avoir un jugement de la Cour qui va nous aider. Il y a le non-renouvellement de la clause en 2029. Oui, on a dit qu'on ne le renouvellerait pas, mais ouais. Honnêtement, Lambert, entre maintenant et 2029, il va se passer un paquet d'affaires où les politiciens...
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bien, je veux dire, nécessairement, dans les trois dernières années, ça en est passé des choses. Donc, de dire exactement en 2029 qu'est-ce qui va se passer, peut-être que je ne suis pas un assez bon politicien de te dire ça, mais moi, je suis sûr qu'il va se passer tellement de choses qu'on va devoir se positionner puis se repositionner.
Ça se peut que ton idée change sur le renouvellement de la clause.
Bien, je ne veux pas donner l'impression que mon idée change au gré du vent.
Non,
ce que je dis, c'est que moi, ce que
je pense, je veux dire.
Oui, je suis ouvert. Oui. Puis moi, je cherche la cohésion sociale. Et ça, encore une fois, ça ne fait pas toujours des bonnes clips politiques. Mais je t'ai parlé tantôt de plein de qualités pour mes adversaires. Moi, je cherche à ce que les gens qui n'ont pas voté pour moi ou qui ne voteront pas pour moi se sentent aussi inclus dans le Québec que je veux diriger.
À tout le moins écouter.
Bien, à tout le moins écouter. Puis ça manque en ce moment.
C'est un discours vide, je trouve, sur tout ce qui est laïcité, clause dérogatoire. Ça manque de viande autour de là. Je suis pour la cohésion sociale. Tout le monde est pour la cohésion sociale. Mais comment vous allez le faire, M. Milliard? Il n'a jamais été capable de l'expliquer dans les différentes entrevues qu'il a données, dont ici sur les ondes de Boulevard 102.1.
Oui, c'est pas nécessairement évident parce que dire ça, c'est une autre chose, mais de le faire après, c'est une autre chose. C'est ça. Là, il est sur la loi 21. Puis moi, ce qui m'a. Évidemment, je savais d'office en préparant l'entrevue que le Parti libéral avait pris la position de ne pas renouveler la clause dérogatoire, d'ailleurs, qui est sujet de chaud débat cette semaine, alors que les consultations se font à Ottawa devant la Cour suprême, là, au niveau de l'utilisation de la clause dérogatoire, la clause de protection. On rappellera ça aux gens, ça permet à un gouvernement de protéger une loi pendant 5 ans de l'œil des tribunaux et il faut la renouveler à chaque 5 ans, cette clause-là. Mm-hmm. Ça peut permettre d'un petit peu empiéter sur certains droits individuels au profit de droits plus, collectifs. Voilà. Et la position du Parti libéral, bien, c'était justement, on va la prendre puis on ne la renouvellera pas. On va la sacrer aux poubelles. Et donc, ce qui est intéressant à cet extrait-là, c'est qu'il semble ouvrir la porte.
Oui, là, ça pourrait changer, ça pourrait. Il va falloir qu'il se positionne davantage, selon moi, en campagne électorale.
Bien, c'est drôle parce qu'il était très clair sur plusieurs des enjeux, notamment, évidemment, sur la question nationale. On n'est pas surpris de ça, mais sur plusieurs enjeux, il est assez clair. Sur celui-là, il dit, c'est sûr que ma position peut paraître pas très claire par rapport à celle des autres partis. Mais j'en suis conscient, mais il pense que c'est une question délicate, puis il veut réévaluer au fur et à mesure où on avance. Sais-tu quoi? Je préfère une réponse comme ça que un oui catégorique de non, nous autres, la clause dérogatoire, ça semble belle. Mais pour plusieurs Québécois, tu sais, j'y ai dit, là, tu veux reconquérir l'électorat francophone. Pour plusieurs Québécois francophones, c'est important, cette loi-là. Yes. Alors, je préfère l'entendre ouvrir la porte qu'être catégorique là-dessus, en toute honnêteté.
On écoute la...
Oui, c'est ça, c'est sur l'immigration.
Excellent. On écoute ça, on commente par la suite.
Il y a des gens qui disent il veut accepter 2-3 fois plus d'immigrants. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'il faut mesurer c'est quoi la capacité là. Dans le Bas-Saint-Laurent en ce moment, combien de gens on peut raisonnablement accueillir et bien traiter là? Pas les laisser dans la rue, pas les mettre dans des chambres à 5 personnes.
Ouais.
Donc, si la réponse avec les chiffres qu'on a, c'est 200 personnes, si on dit qu'on en a besoin de 400, bien, il va falloir faire les investissements pour accueillir les 200 de plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on en a besoin. Donc, je ne veux pas nécessairement avoir 2-3 fois plus d'immigrants dans chaque région. Par contre, j'arrive de 3 jours en Abitibi cette semaine, puis les gens qui sont en passant 100% francophones ou presque en Abitibi me disent, écoutez, là, arrêtez ce discours populiste-là, on a besoin de gens.
Puis si ton exercice de capacité d'accueil, au final, il te dit, garde, on a de la misère à fournir pour le monde qui sont déjà ici.
On posera... Oui, mais on va présenter ça aux Québécois, on va présenter ça aux élus, puis on va prendre la décision qui va nous faire collectivement.
Si c'est moins que ce que le PQ propose, tu sais, mettons, dans un monde, là, ça sera ça.
On verra, mais on aura une base mathématique plus intéressante. Puis merci de dire... Parce que je veux pas nécessairement 2-3 fois plus.
J'ai adoré, Lambert, tes questions à la fin parce que on interviewait tantôt Maïté Blanchette-Vézina qui disait on va y aller par région aussi en immigration. Mais au tout pour tout, là, chaque région décidait, comme Antonine Niacarini nous a dit, ça va être 200 000 qu'on va accueillir, puis on n'a pas la capacité pour ça.
Bien, c'est ça l'affaire. Puis c'est un peu ça, là, l'extrait, je l'ai raccourci, mais entre les deux, je suis comme, tu sais, si on se fait, toi, tu sais, j'ai dit, M. Milliard, Charles, on est ensemble là, face à face, là, tu sais, c'est une belle ligne, je trouve, sur papier, c'est bien de dire... On va regarder région par région, puis là, j'imagine que tu fais référence aux enjeux de logement, garderie, réseau de la santé, réseau de l'éducation, mais tu sais, si on y va catégorie par catégorie, bien, tabarouette, Jeff, les CPE, on a déjà 30 000 personnes en liste d'attente. L'accès aux soins de santé, tu sais, tu as des listes qui n'en finissent plus pour l'accès à la chirurgie, l'accès à un médecin. Si tu regardes au niveau des écoles. On est rendu qu'on met des élèves dans des roulottes de chantier pour avoir de la place pour les enseigner. On manque de profs. Si on parle de la santé, si on parle de tout le reste, bref, on semble déjà être un petit peu dans les cordes. Alors, je trouve que c'est un bel exercice, mais sur papier, ça va être vraiment plus difficile à faire. Puis j'ai hâte de voir au final, ça va se traduire comment. Parce que si son bel exercice mathématique finit par dire, ben justement, on a déjà plus de place, il va être un petit peu, mal pris.
Dans sa position, en effet.
L'autre affaire, Jeff, c'est...
Yes, rapidement.
Ouais, l'affaire, c'est le fédéral. Il n'y a pas toutes les données.
T'sais. En plein ça. T'as entièrement raison. Disponible sur tes différentes plateformes à partir de maintenant, Lambert?
Sur YouTube, avec Lambert Charles Milliard, ça va être facile à trouver.
Excellent. Merci beaucoup, Lambert Drainville. On se parle vendredi avec Farnell Morissette. Toujours un bonheur de te parler.
Merci, bye-bye.
Salut Lambert. Lambert Drainville, excellent vulgarisateur d'actualité. Pascal Cévé.
Tu savais que Téhéran et les États-Unis tentaient d'avoir un genre de plan sur une fin d'hostilité pour la guerre.
Ouais, en 15 points, Donald Trump nous a annoncé ça.
Ouais, ben en fait, l'Iran devait respecter 150 000 points et les États-Unis 3.
C'est étonnant.
Ce qu'on vient d'apprendre, c'est que Téhéran aurait refusé le plan américain de fin des hostilités selon un média d'État. Donc... on veut que le plan de l'administration américaine, oui, en 15 points, soit destiné à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, mais ça se fait pas seul. Puis là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un document qui a été transmis par un médiateur pakistanais. Et selon Press TV, c'est une chaîne en anglais qui est destinée à un public étranger, ça n'aurait pas été accepté par l'Iran.
Surprenant. Surprenant que les négociations avec Donald Trump ne fonctionnent pas. Vous comprendrez mon sarcasme. Pascal, on parle justement de technologie de sécurité publique avec un dossier que tu nous as préparé pour terminer le show après la pause. Ça te convient, ça?
Oui.
Excellent, on fait ça à l'émission d'En Jazz, Boulevard 102.1.
102.1 avec Jeff Fortin et Pascal Cévé.
13h46, l'émission d'En Jazz sert à sa fin. Le retour de Gravel suit de 14h à 18h avec Denis Véro et Audrey. Manquez pas à 16h30 une entrevue avec Sébastien Hull, journaliste pour Le Nouvelliste, qui a fait 8 jours d'immersion en itinérance. Pas de papier, pas d'argent, pas rien. Il va faire une série de 6 chroniques, justement, 6 articles de dossier dans Le Nouvelliste. C'est distribué également dans Le Soleil. Donc, entrevue à 16h30 dans Gravel, dans Le Retour. Vous rappelez que le Canadien de Montréal l'a emporté hier 5-2. Cole Caulfield, Pascal, a marqué son 44e but de la saison. Pascal, lundi, Christine Fréchette faisait une annonce concernant la sécurité publique et les nouvelles technologies. Antonine Iaccarini, dans le caucus, nous l'a dit, c'est passé sous le radar en raison de la sortie de Gilles Bélanger, qui a dit « je veux rien savoir de Bernard Drainville ». Mais toi, t'as creusé le dossier plus loin pour nous.
Ah, ça n'avait pas passé sous mon radar. Écoute, on l'avait pour hier, mais comme toute l'actualité est foisonnante, ça a dû tomber aussi de notre planning, mais on revient avec ça aujourd'hui.
Bien sûr.
L'annonce de Christine Fréchette, on l'écoute.
Donc, on veut lutter contre les groupes criminalisés de manière mieux outillée, en utilisant notamment l'intelligence artificielle, par exemple. On a une expertise avérée là, à Montréal. Donc, on veut faire en sorte d'outiller les policiers avec des technologies qui vont leur permettre de mieux intervenir, notamment sur les éléments de reconnaissance faciale, associés aux groupes criminalisés, sur la reconnaissance de réseaux technologiques qui sont mal intentionnés.
Elle parlait aux côtés de Yann Lafrenière en sécurité publique, vous le savez. Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que réellement, on peut être contre la vertu? Non. Mais est-ce que c'est possible en 2026? C'est pas un peu étrange de parler de ça seulement en 2026? Le crime organisé semble plus avancé que le gouvernement. Et c'est la question que j'ai posée à Patrick Mathieu, qui est cofondateur du Hackfest et expert en cybersécurité.
T'sais, on est déjà supposé d'être rendu là. On prend toujours 12 000 analyses et beaucoup, beaucoup de temps avant de se mettre à jour. Et le problème, c'est que tant qu'on ne gérera pas les choses de base, ben on n'a pas l'expertise, on n'a pas la compétence, puis on a de la misère à gérer des projets qui sont supposés d'être faciles à gérer depuis 30 ans.
Ben c'est ça, parce qu'on va-tu être capable? On n'est pas capable de gérer sa clique, on n'est pas capable de gérer santé numérique. On va-tu être vraiment capable de se fier à l'intelligence artificielle?
Ben on a peu d'informations jusqu'à maintenant là-dessus. Quand je parlais à Patrick Mathieu, je lui ai dit, y a-tu des exemples d'intégration qui te viennent à l'esprit là, pour la sécurité publique? Finalement, ce sont des exemples qui ne vont pas bien.
Ben, en fait, j'ai des exemples qui ne devraient pas être faits puis qui sont en train de se faire... déployé là présentement au Québec. Il y a eu plusieurs nouvelles sur les systèmes de caméras, détection de crimes et choses comme ça qui est quand même populaire aux États-Unis puis qui est beaucoup décrié là. C'est un grave problème à la vie privée. C'est un grave problème à la sécurité de ces systèmes-là. Là, on l'a vu avec l'Iran, là, Israël, qui a piraté tous les systèmes de caméras de la ville et tout pour voir leurs cibles. Fait que, ça peut aller loin en termes de problématiques. Quand on commence à mettre des caméras partout, qu'on parle de drones ou peu importe le genre de technologie qu'on va aller contre le crime, ça a des impacts sur monsieur, madame, tout le monde. Les instances policières et autres, c'est pas des experts en technologie. Fait qu'il faut que ce soit encadré comme il faut. Puis comme on vient de dire, ben, je suis pas sûr qu'on est rendu là.
C'est un bon point. T'sais, je regarde, c'est pas tous les enquêteurs qui vont être capables de travailler avec ça. C'est pas tout le personnel policier qui va être capable de travailler avec ça. Puis hier, tu m'avais allumé aussi, tu m'avais dit avec Jeff Sécurité ou vie privée. Là. J'ai encore ça en tête, moi. Tu m'avais dit ça en fin d'émission.
C'est la grande question du dossier aussi. Là. Puis il y en a d'autres. Je vais finir avec trois clips importants de Patrick Mathieu. Puis oui, c'est un choix de société important. Est-ce qu'on va mettre en priorité la vie privée ou avoir plus de sécurité en société?
C'est toujours un penchant. Est-ce qu'on choisit le vaccinal parce qu'il allait bloquer l'accès à des lieux? Tout le monde a dit, ben non, ils ne feront jamais ça. Voyons, c'est pas grave, c'est pour le bien de tout le monde. Six mois plus tard, même si elle dit, on ne fera jamais ça, ben ils l'ont fait. Fait que c'est vraiment que le gouvernement n'a pas d'arrêt de jugement en ce sens-là. Puis faut faire attention là, en tant que citoyen là-dessus.
Puis il y a des échecs dans le monde là-dessus, Jeff. Puis malheureusement, là, on se connaît au Québec. Des fois, on va trop vite, on n'a pas tout évalué. Puis c'est après qu'il faut ramasser les pots cassés. C'est quoi les exemples d'échecs dans le monde?
Ça fait du sens de dire, bien, on va avoir, mettons, une caméra qui détecte les personnes. Mais cette même technologie-là existe, je crois que c'est aux États-Unis ou en Europe. Et ils ont des problèmes. Et ils se retrouvent avec des personnes qui sont flaguées, qui n'ont aucun lien avec la personne qui est le crime, fait qu'ils se font arrêter pour rien. Là. Sur papier, c'est une bonne idée, mais l'exécution de tout ça, c'est rarement facile. Là.
Fait que des arrestations pour rien parce que j'ai flagué ta face, mais finalement, c'était pas ta face. C'est ça que je comprends?
Imagine. T'sais,
donc, ça veut dire un criminel qui me ressemblerait.
Ben oui.
Qui a fait un meurtre ou un viol. Puis là, on dit, on recherche avec la reconnaissance sociale, on dit, oh! Il est chez eux sur son terrain à Beauport. On vient m'arrêter devant mes enfants, mais Colin, c'est pas moi. Puis là, j'ai bien beau me débattre de dire c'est pas moi.
Tu sais, le visage.
Quand même, les voisins ont toutes vu les policiers arriver. Là.
Puis oui, bien, premièrement. Deuxièmement, je veux dire, le visage, est-ce que tu peux amener ça comme preuve hors de tout doute parce que tu as l'impression que c'est ton visage? C'est très complexe. Habituellement, quand on est capable d'identifier quelqu'un, bien, ça amène beaucoup dans un procès. Là, cette fois-ci, est-ce que ça va compliquer les choses? Il y a toujours une question aussi qui me revient en tête. Puis pour côtoyer ces gens-là, entre autres, Patrick Mathieu, ça fait longtemps que dans ma vie, OK? Co-fondateur du Hackfest, je suivais ça très jeune. Puis c'est toujours la même chose. Il semble qu'avec tous les fiascos provinciaux fédéraux dernièrement, on peut-tu s'attendre à ce que ça coûte trop cher encore parce que les gouvernements ne savent pas combien ça coûte, ce genre de projet-là, puis que le privé se gâte en appuyant sur le crayon?
Ah, ça, c'est certain. Tant qu'on ne sera pas sorti d'un gouvernement qui gère ses finances correctement, on va toujours être dans cette problématique-là. Le problème, c'est souvent que le système d'appel d'offres, les équipes qui gèrent les paiements, etc., ne sont pas équipées ou n'ont pas les règles en place ou ne veulent tout simplement pas gérer ça comme il faut.
C'est ça le problème, hein? Puis on va toujours revenir là. C'est le manque d'expertise en nouvelles technologies en informatique du gouvernement. Parce que sur papier, ça me semble être une superbe idée
on
d'utiliser l'intelligence
vertu.
Artificielle. On va arrêter plus de monde, on va être plus en sécurité. Mais là, oups, si quelqu'un est capable d'hacker le système, qu'est-ce qui arrive avec ma vie privée?
Puis pas juste ça. Les lumières, justement, de est-ce qu'on peut avoir une vie privée en dehors de la sécurité publique est augmentée? Bien, la question se pose. On revient au passeport vaccinal, où on ne pouvait pas circuler dans certains endroits sans ce bout de papier-là pendant la crise pandémique. Il y en a qui étaient en désaccord avec ça, il y en a qui étaient en accord avec ça, mais ça a créé des enjeux aussi de vie,
en effet.
De vie privée puis de possibilités de droits de la personne, etc. Tu sais, le gouvernement avait dit qu'il n'allait jamais en venir là. Il en est venu là. On peut être en accord, en désaccord. Le point est, qu'est-ce qu'on choisit? C'est quoi nos limites? Surtout, comment on instaure ça? Il faut faire attention parce qu'on ne peut pas être contre la vertu de Mme Fréchette, mais est-ce qu'elle est bien ficelée? À date, la réponse, c'est non, selon
c'est
les experts.
Non. Donc, selon Pascal CV et les experts, la promesse de Christine Fréchette ne pourrait pas être tenue. C'est ce que j'en conclue. Je suis dans l'erreur.
Ben, moi, je l'analyse comme ça.
Pas dans l'erreur. Parfait. Breaking news, Pascal.
Ça vient de l'agence France Presse. On apprend que la dépendance aux réseaux sociaux Instagram et YouTube est condamnée pour la première fois. Donc, Instagram et YouTube sont responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine. C'est un jury qui a conclu ça. Jury californien aujourd'hui. Verdict inédit. Hein, ça crée un précédent pour des milliers de plaignants aux États-Unis qui accusent les grandes plateformes d'être responsables d'une épidémie de dépendance aux réseaux sociaux. Ça s'est rendu à Los Angeles et on conclut que Meta, c'est la maison mère d'Instagram, de YouTube, Google, ont fait preuve de négligence dans la conception de leur réseau social et n'ont pas suffisamment averti les utilisateurs de la dangerosité de leur plateforme sur les mineurs. Il y a plus d'infos qui suivront. C'est un immense tournant, Jeff.
Ah, mais hein, immense tournant qu'on va suivre attentivement parce que, justement, ça pourrait avoir des répercussions ailleurs dans le monde, dont ici au Canada. Dans la Ligue nationale, deux matchs ce soir. Les Bruins qui affrontent les Sabres, c'est le match à surveiller. Les Bruins qui en ont échappé une contre les pauvres Maple Leafs de Toronto hier, Pascal. Ce qui fait en sorte qu'avec la victoire du Canadien, le Canadien a maintenant 88 points au classement. Les Bruins, 86. Les Sénateurs, 85. Les Islanders, 85. Les Pingouins, 86. La course est encore serrée, mais la victoire du CH hier leur a donné un petit souffle, comme on dit en langage sportif.
À vous aussi. Ben toi, tu n'es pas un grand fan des Canadiens, mais tu commences.
Moi, prochain match du Canadien, c'est demain soir contre les Blue Jackets de Columbus. Et Yannick Marceau, il sera avec son garçon. C'est son cadeau de fête.
Wow!
C'est-tu pas beau? Le retour de Gravel, tu es à l'instant même de 14h à 18h. Marceau, le soir à 18h. Et on reprend ça demain matin avec Marceau le matin. Et le point de max, Jeff Fortin, Pascal Cévé, vous souhaite une bonne fin de journée sur les ondes de Boulevard 102.1.
Bye-bye.
Bye-bye.